action cardiaque qui doivent partir. Les gens trop sensibles, parce que c'est la partie peut-être la plus impressionnante du parcours sur les fins dernières. Donc, je vous ai mis un résumé en trois points. D'abord, on va rappeler les distances et l'éternité de l'enfer. Ah oui, je vous rappelle une règle du jeu, c'est que vous ne parlez pas entre vous. Enfin, ça, je suis vraiment un sale prof. Parce que de mon temps, j'étais à une époque où les profs arrivaient à se faire à peu près écouter. Et j'ai beaucoup de mal à parler. Si vous échangez entre vous, même si je ne le vois pas, je le sens. Donc ça fait baisser le tonus, et surtout qu'il n'y a rien dans mon verre, donc je risque de m'arrêter de parler. Donc l'existence et l'éternité de l'enfer, ensuite la peine du sens, et enfin, le point le plus important, la peine du dent. Alors ce sont deux points que j'ai développés dans ce livre sur les fins dernières, en deux sermons. Donc je vous y renvoie, mais je vais tâcher de vous montrer un peu la ligne générale. D'abord, le premier point, c'est l'existence de l'enfer, qui est donnée, qui ressort. J'ai pas mis les références là, parce qu'elles sont très nombreuses, vous les trouverez en particulier dans le livre. Elles ressortent de ce que notre Seigneur dit dans les évangiles, il en parle très fréquemment, de ce que disent les apôtres dans les épîtres et dans l'Apocalypse pour saint Jean, et puis des témoignages qu'on trouve dans la liturgie, par exemple dans la liturgie des défunts traditionnelle, vous avez la grande séquence qu'on appelle le Dies Irae, jour de colère, et puis l'absoute qui est absolument magnifique, le Libera, qu'on chante avec l'aspersion et l'encensement du corps à la fin de la messe avant le départ au cimetière. Et donc il y a des allusions extrêmement fortes à l'enfer, et comme dit donc Guéranger, la liturgie et la tradition en sont toujours au degré de puissance et de solennité. Donc, l'écriture, la tradition, et puis les pères de l'Église, les enseignements des pères, qui sont très très nets. Il y a eu, dans les livres que je vous ai mis dans la bibliographie, il y a celui du père Abra, donc un père grec catholique melkite, qui a écrit donc un livre sur la mort et l'au-delà d'après les pères grecs. Et donc, voilà, il y a toute une documentation importante. Et puis, le magistère de l'Église, le magistère, c'est la fonction enseignante. Donc depuis les premiers symboles, qui datent du 2e, 3e siècle, jusqu'à la période contemporaine, représentés donc ici dans le texte, j'ai lu le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium numéro 48, vous avez un passage tout à fait traditionnel et fort, et puis dans le Catéchisme de l'Église catholique, et dans le résumé aussi, que je n'ai pas laissé voir, mais je pense que c'est repris, et enfin une allusion dans les numéros 43-45 de l'encyclique du pape sur l'espérance. Alors c'est qui a moins d'autorité, si vous êtes logique, que le catéchisme ou que le concile, mais c'est quand même un des lieux du magistère ordinaire. Et là, c'est d'ailleurs intéressant parce que Benoît XVI affirme même qu'il y a des gens qui sont en enfer. Alors que la tendance actuelle, vous allez le voir, est plutôt de dire l'enfer existe, mais il n'y a personne dedans. On va voir que ça ne tient pas debout, mais c'est la tendance actuelle. Donc, toutes ces affirmations sont convergentes. Il existe dans l'au-delà un juste châtiment de ceux qui meurent en état de péché mortel. C'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est-à-dire un mot qui veut dire en bas, bon, parce que dans la représentation symbolique, le haut, c'est la pureté, l'absolu, la grandeur, etc., l'éminence, le lieu de Dieu, si vous voulez. Si Dieu avait un lieu symboliquement, symbolique par le haut, notre Père qui est aux cieux, je vous l'avais déjà dit dans le Pater, et puis l'enfer, bon, c'est ce qui est sinistre, enfin, ce qui est en dessous. Voilà. Et donc, voilà, et là-dessus, il y a également un certain consensus des peuples, enfin quand je parle du consensus, il faut exclure la période tout à fait moderne, qui encore n'arrive pas à rompre le consensus à mon avis. La plupart des peuples, la plupart des humains ont cru qu'il y a une certaine justice transcendante. Et l'universalité de ce sentiment, sous toutes les formes qu'il revêt depuis les premiers mythes jusqu'à l'Iliade, Virgile, etc., et puis tous les témoignages aussi bien extrêmement orientaux qu'occidentaux, doit être interprété comme soit un vestige de la révélation primitive qui a été faite à Adam et à Noé et qui a été conservée plus ou moins dans les souvenirs des peuples. Vous voyez, beaucoup de peuples ont l'idée d'un déluge, etc. Bon. Soit, c'est pas contradictoire l'un et l'autre, comme l'expression même de la loi naturelle qui s'exprime dans la raison des gens. L'homme, c'est un être absurde. S'il n'y avait pas de justice, il n'y a pas de justice en ce monde. Donc, vous voyez, la plupart des gens arrivent à faire ce raisonnement. Donc, vous voyez, ça c'est l'introduction. Et je vous signale également, pour un catholique, je vous signale à propos des nombreux hérétiques qui peuplent malheureusement, au moins hérétiques matériels, qui se trouvent à l'intérieur des limites visibles de l'Église, que l'enfer existe et qu'il soit éternel, c'est un dogme de foi. Donc je vous le signale comme ça, histoire de faire de la polémique, parce qu'un dominicain est un chien qui aboie, surtout quand il vient de recevoir sa tête, qu'il attend depuis 5 ans. Alors, donc l'éternité de l'enfer, maintenant on va essayer d'alimenter avec la raison, comme on passe de le faire souvent. Il y a un côté exhortatif qu'on développe dans ce homélie, et il y a un côté plus de réflexion qu'on essaie de développer un peu ici. Alors, l'éternité de l'enfer, qui est le, d'après un théologien de la contre-réforme, qui s'appelle Lessius, donc que je soupçonne d'être jésuite, mais qui est quand même catholique, vous voyez, et qui est cité par Pie XII, enfin qui dit qu'il y a quatre dogmes extrêmement difficiles à croire, donc il les donne, il les énumère et dit l'éternité des peines de l'enfer. Et de fait, c'est vrai que ça semble a priori heurter un certain sentiment, surtout un sentiment en erreur. Hein. Et puis surtout, disons, les capacités de notre raison naturelle par rapport à un problème qui est essentiellement métaphysique. Donc cette éternité, elle vient, en fait, c'est ça qu'il faudrait que vous bien qu'on comprenne, c'est que elle découle de l'essence même du péché. Oui. On dit, vous voyez, quand on est en état de péché mortel, on est en état de damnation, seulement on ne sait pas. Et l'enfer, c'est simplement ça, on découvre ce que c'est. C'est pas parce que souvent on s'imagine, vous voyez, pour faire rejeter le dogme de l'enfer, on pousse la caricature, on dit il y a un dieu sadique qui aime bien torturer les gens, etc. Et comme s'il infligeait une peine, quand on donne une peine à un enfant, bon, bah, normalement c'est parce qu'il a fait quelque chose, mais la nature de la peine est un peu arbitraire, et puis il peut aussi y avoir des erreurs, et puis il peut y avoir un peu de colère, un peu trop, etc. Hein? Et enfin, ça vient de l'extérieur, vous voyez. Mais la peine principale, dès que l'enfant est un peu éduqué, c'est le remords, la peine intérieure, vous voyez. Ouais, de se rendre compte qu'on a offensé le bien et qu'on a fait de la peine à sa maman, par exemple. Même des sales gamins se rendent compte de ça. Faut pas dire qu'il est mignon, il est innocent, etc. L'enfant, il est avec le pécheur originel. Hein. Et donc, c'est plutôt un sale gosse, quoi. Même s'il est très gentil, s'il a les yeux bleus et qu'il a des cheveux qui frisent. Hein. C'est quand même un sale gosse, par métaphysique. Enfin, il est baptisé, donc c'est plus un sale gosse, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'illusions hein, sur l'éducation. L'éducation, c'est une lutte contre le mal aussi. Hein. Et faire sortir des racines du bien, mais dans une nature qui est quand même fragilisée par le péché. Donc, ça sort, vous voyez, de la nature même, le péché mortel. C'est le péché sur une matière grave qui a été choisi en pleine connaissance de cause. Évidemment, quand on est dans un demi-sommeil, qu'on n'est pas conscient, quand on est forcé, on ne peut pas faire un péché mortel, hein, quand on est forcé physiquement, bien entendu. Mais c'est bon, voir que la matière est grave, il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour faire un péché mortel. Hein. On peut être de la mafia et faire un péché mortel en trahissant ses amis parce qu'on pense qu'il y a une loi absolue qui est l'équivalent de Dieu pour le mafieux, si vous voulez. Enfin, je parle du mafieux métaphysique d'autrefois, il y en a encore quelques-uns, qui est qu'on ne trahit pas le copain. Et donc si je trahis, je fais une faute grave. Bon, je pousse à l'extrême, mais vous savez, la conscience faussée, ça existe. Hein. Donc si vous voulez, c'est transgresser une loi fondamentale, importante, qui est saisie comme telle, en le sachant et en disant, bon ben voilà, même si on tue quelqu'un, bon, on voudrait éventuellement pas le tuer, c'est pour lui prendre son fric, mais il s'oppose à ce qu'on lui prenne son fric, qu'on le tue. C'est quand même un péché un petit peu grave, quoi. Un petit péché un peu grave, parce qu'on n'est quand même pas obligé de lui prendre son fric, donc on n'est pas obligé de le tuer. Donc vous voyez, et donc... C'est un choix qui est de soi définitif, oui. Parce qu'en fait, vous voyez, l'adhésion de la volonté à la déficience, hein, parce que c'est ça le mal, c'est, on choisit toujours pour un bien, mais on dit, tant pis, je passe la déficience, bon, je prends une femme, elle est jolie, elle me plaît, c'est pas la mienne, mais bon, ça fait rien, vous voyez. Et bien, on adhère à ça, et c'est une adhésion, quoi, on y adhère, point. Alors après, éventuellement, on peut se convertir, mais de soi, si vous voulez, il y a un choix. Oui, il y a Dieu, et on commence quand, très souvent, on commence d'abord par faire un péché de détournement de la loi divine. Et surtout dans les péchés contre la chasteté, très souvent, le regard se détourne de Dieu et de sa loi. Parce qu'il est très difficile de pécher avec les yeux fixés, c'est possible d'en pécher de malice, avec les yeux fixés sur la bonté divine. Donc on dit, ah mais non, ça c'est les intégristes qui racontent ça, ou c'est les fondamentalistes, mais en fait non, Dieu ne peut pas exiger qu'eux, etc. Et donc voilà, on détourne, ce qui est déjà une faute, parce que c'est se méfier de Dieu, vous voyez, c'est le péché d'Adam, ça a été ça. C'était commencer à accuser Dieu de ne pas être innocent. Dieu en fait est jaloux. C'est ça la tentation fondamentale du serpent, hein, il est jaloux. De méfier, voilà, donc c'est déjà un péché d'une énorme. Hein. Bon. Et alors après, donc il y a une sorte de définitivité, si vous voulez, dans cette adhésion, parce que c'est quand même un choix fait par un être spirituel, et la gravité de ce choix comporte, nous dit saint Thomas, une certaine infinité. Pourquoi ? Là, il y a une raison, il y a deux raisons qui permettent de le voir. Il y a une raison un peu rationnelle, c'est que de soi, le péché grave offense quelqu'un qui a une dignité infinie. C'est connu que quand vous offensez votre père ou votre mère, c'est plus grave que quand c'est un couidable. Ou votre ami, votre bienfaiteur, ou la patrie, ou le chef d'État, hein, même s'il n'est pas sympa, ça fait rien. En tant que tel, c'est plus grave que quelqu'un qui n'est pas constitué en dignité. Parce qu'il représente davantage la source, le bien commun, et donc par rapport à lui, on a des devoirs particuliers. Le parricide, même dans les certains milieux truands, on ne parle pas au parricide, on estime qu'il ne faut pas tuer son propre quand même. Parce que, et vous voyez, c'est pas, mais peut-être quelquefois il est tué moins cruellement que dans des autres cas où on tue quelqu'un en torturant. Mais même si on tue proprement, c'est votre père. Et donc, dans le cas du péché, le péché c'est le meurtre de Dieu. Mais du coup, là, il est aussi réussi qu'il peut être du côté des hommes, c'est-à-dire qu'il est raté. Mais c'est pas le meurtre de Dieu au sens de Dieu est mort et nous l'avons tué, des philosophes modernes. Hein. C'est le meurtre de Dieu au sens que dans le péché, si vous voulez, bon, on offense quelqu'un. Et ce quelqu'un a une dignité infinie. Donc de soi, le péché, pour autant qu'un homme peut faire ça, il a une certaine dynamique potentiellement infinie. Et ce qui nous aide à le comprendre, nous chrétiens, c'est que pour racheter le péché, il faut la mort de l'homme-dieu. Mais quiconque est chrétien et vraiment un bon catéchiste sait que Jésus est mort pour nos péchés. S'il n'y a pas d'enfer, ou si l'enfer est temporaire, ben, il ferait mieux de rester au ciel. Hein. Parce qu'au bout d'un certain temps, vous mettez le compteur où il faut, on sera tous au ciel. Y compris les pires monstres et les plus grands saints. Donc c'est vraiment pas la peine que Dieu se déplace et qu'il subisse la passion. Donc vous voyez, il y a la dignité infinie de Dieu et le fait que l'enjeu qui est mis dans la balance, c'est la mort d'un homme-dieu. Donc ça nous laisse supposer. D'ailleurs, et en fait, c'est la mort du Christ qui nous révèle la grandeur du péché. C'est pourquoi le péché du chrétien, de toute façon, plus grave que toujours des temps égales par ailleurs, parce que les gens disent parfois, bah vous, les cathos, ça va, c'est cool, vous vous sécurisez, machin, etc., vous prenez une assurance sur la vie. Je suis désolé, le chrétien est jugé plus sévèrement que le non-chrétien. Hein. Et le prêtre que le non-prêtre, l'évêque que le prêtre, le pape que le prêtre. C'était à Saint Clapisson qui avait très peur quand il a été nommé évêque. Donc, vous voyez, tout est très juste quand même. Hein. Donc voilà. Alors, cette éternité, en fait, de l'enfer, est la seule sanction pleinement efficace de la loi naturelle. C'est une idée qu'on retrouve chez les pères de l'Église. C'est-à-dire que. Il y a une loi naturelle hein, qui est promulguée par Dieu, par la raison, dans le cœur de tous les hommes. Et tous les hommes ont une conscience, même déformée. Enfin, à moins d'être devenu fou, quoi. Mais quelqu'un qui n'est pas devenu fou, par définition, est un homme dont il a une conscience. Et cette conscience est ce que le père Molini appelle le juge infini. C'est-à-dire, même si vous êtes absous au tribunal, même si personne ne sait, vous avez en vous l'œil qui était dans la tombe et qui regardait qu'un. Et vous avez beau tout tourner dans tous les sens, vous voyez. C'est-à-dire ce qui explique un peu que parfois, les méchants, enfin qu'on appelle techniquement les méchants, les attaquent, si vous voulez, ceux qui ne sont pas méchants, c'est dans le livre de la sagesse, parce que leur simple existence est un reproche par rapport à la vie humaine. Mais ça les agace, quoi. Ça les agace qu'il y ait des gens propres sur eux, alors qu'eux, ils savent bien comment. C'est comme ça qu'ils apprennent la chose. Bon. Et donc, ça, c'est à cause du juge infini qui est la conscience. Et donc, il faut que la conscience. La conscience a la notion, si vous voulez, qu'elle a transgressé quelque chose d'absolu. Et ça, si vous dites que ce n'est pas vrai, vous dites que personne n'est un homme. Parce que si on estime, vous voyez, que l'homme est incapable d'imaginer qu'il y a des interdits absolus, là, ce n'est pas un homme. L'homme, c'est par définition quelqu'un qui est capable de dire non, il y a des trucs, tu peux me donner tout le fait que tu veux, je ne tuerai pas ou je ne ferai pas quelque chose qui est affreux. Même si on me donne beaucoup, même si c'est pour sauver beaucoup de gens, non, je ne sais pas, quelque chose. Et ça, n'importe qui le sent, vous voyez, de façon plus ou moins confuse, mais on le sent bien. Et donc, c'est cette transgression d'une chose qui est absolue a pour sanction efficace, eh bien, l'éternité de l'enfer. Parce que sinon, vous voyez, par exemple, chez les musulmans, il y a quand même une certaine faiblesse, c'est que c'est un peu difficile de savoir quel est le contenu détaillé de la théologie musulmane, parce que l'islam est plus une loi qu'un dogme, enfin, c'est un dogme, mais surtout sous l'aspect de la loi. Mais enfin. Il semble bien que pour le musulman, de toute façon, sauf s'il apostasie, il est sauvé. Mais il passe en enfer, un certain temps, il y a un enfer temporaire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas musulman, vous êtes forcément damné. Donc évidemment, c'est plus simple. Hein. Mais donc, alors, l'éternité de l'enfer est une sanction efficace de la loi naturelle, et il semble bien qu'il n'y en ait pas autrement. Qu'il n'y en ait pas autrement, parce que tout ce qui est temporaire, vous voyez, quand on voit ce qu'on est capable de faire pour atteindre un but, eh bien, on se dit, bon, ben, au bout d'un certain temps, j'aurai la vision béatifique et je jouerai au cerceau avec les saints innocents. même si j'ai étranglé quelqu'un, je lui ai arraché le foie, je l'ai mangé, etc. C'est pas grave. Je me suis shooté à mort et j'ai démoli tout le monde, quoi. Ou que j'ai été un salaud qui n'a pas assumé les devoirs qu'il avait contractés dans son état de vie, etc. Ça fait rien. Parce que de toute façon, au bout du compte, j'ai la vision béatifique, quoi qu'il arrive. Oui. Et alors le père Molinier dit très bien, pour en revenir là-dessus. Bon, et là je vous ai copié un passage que j'ai même retraduit sur le dialogue de Sainte Catherine de Sienne. Hein? Donc un beau passage où Dieu parle à Sainte Catherine de Sienne et lui explique qu'en fait à l'instant de la mort, vous voyez, il y a comme une sorte d'avant-goût, si vous voulez, pour les élus du ciel et pour les damnés de l'enfer. Et qu'en fait il y a une sorte de... J'ai tâché de rendre les termes les plus précis par rapport à l'original qui est toscan en fait, hein? Mais en savant différentes traductions. Mais vous voyez, en fait, le damné choisit l'enfer. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Il s'y cramponne par toute la force de sa haine. Parce que, on va essayer de comprendre après pourquoi. Mais ici, Dieu dit, hein, sache bien que ceux qui se sont mis eux-mêmes sous la seigneurie du démon, tous les chapitres d'avant ont montré qu'on était toujours volontairement l'esclave du démon, que le démon ne pouvait pas avoir une domination involontaire sur nous, sauf dans le cas de la possession ou de l'infestation, mais ça c'est un autre chapitre. Bon. Mais si on le laisse, vous voyez, on lui donne notre volonté, alors il rentre en nous, et etc. Et là, il y a une seigneurie, j'ai mis le mot seigneurie, hein, c'est domination, enfin bon, on passe sous sa domination volontairement. Et quand on arrive au moment de la mort, à ce moment-là, on est soi-même son juge. Et le Dieu, enfin, dans le, parce qu'on pense que le dialogue est révélé, hein, c'est une révélation privée, mais quand même, on peut le mettre en parallèle avec la somme de théologie, c'est un peu l'équivalent mystique, si vous voulez, de la réflexion thomiste de saint Thomas d'Aquin. Et elle dictait en extase, hein, la madre, la mamma, elle dictait en extase. Hein. Il y a trois types qui prenaient des notes. Bon, enfin, ça, vous ne voulez pas le croire, ça n'a aucune importance. Hein. Mais n'empêche que ce qui est quand même important, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est qu'en fait, vous voyez, ils n'ont pas besoin d'un autre jugement, eux-mêmes sont leurs juges avec leur propre conscience. Et c'est en désespéré qu'ils se précipitent dans l'éternelle damnation. C'est un grand mystère, mais c'est vrai. C'est vrai, vous voyez, c'est vrai, c'est la profondeur de l'homme, vous voyez, c'est qu'il choisit, ce que je vais vous montrer, il choisit en fait de continuer dans le refus de l'humilité et de l'obéissance. Que je dis, mais comment il ne veut pas le bonheur? Il veut le bonheur, mais il ne veut pas par la voie de l'humilité et de l'obéissance, qui est le seul moyen de notre côté de nous disposer à la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est le seul moyen d'être sauvé. Donc il s'y cramponne, après, il a fait son choix. Vous voyez. Donc il se cramponne, il happe, il y a une autre tradition qui dit happe l'enfer pour leur part, hein, comme un prix qu'on décroche, si vous voulez, dans une fête foraine, hein, avec leur seigneur démon. Hein, c'est ce qu'ils choisissent au moment de la mort. Ils voient avec désespoir le lieu qui leur est destiné et l'embrassent par la haine, comme je te l'ai dit. C'est même que les élus, au moins certains d'entre eux, devinent dans l'amour, etc., qui est le prélude, qui est le paradis, le lieu qui leur est destiné, sont déjà dans le ciel par l'amour. On peut vérifier chez les vieux mourants qui ont été recuits dans la bonté et la récitation du chapitre. Alors, donc, maintenant, voilà, ça c'est la première mise en place, hein, et c'est un choix, et c'est le juge, c'est la personne elle-même qui s'évacue devant la face de Dieu. Évidemment, on va voir qu'il y a d'autres choses, il y a la peine et du sens, mais c'est quelque chose qui vient de la propre autodétermination de la créature humaine, l'enfer. Bon. Alors maintenant, il y a des gens qu'on appelle les miséricordieux. J'ai mis les prétendus miséricordieux, c'est-à-dire c'est des hérésies qui reviennent à longueur de temps, qui disent, il y aura une conversion des damnés, il y aura une conversion de Satan à la fin des temps. Le thème technique, c'est apocatastat, c'est une restauration. Il semble qu'Origène, enfin, est un peu donné là-dedans. Enfin, certaines de ses propositions étaient condamnées, mais c'est un esprit un peu particulier, un grand génie, un peu difficile à comprendre. Mais beaucoup de gens, des origénistes, ont suivi ça, et c'est un courant très développé chez les orientaux. Vous trouvez ça même dans un roman de Volkov, par exemple. Hein, ça se termine sur le fait que Lénine finit par sortir de l'enfer. Bon. Je veux bien, je le souhaite ardemment, mais enfin bon, pas quand même être trop naïf. Hein. Et alors bon, c'est un peu bon, mais pas tous les orientaux. Hein. Le bouquin d'Abraham montre bien que tous les comme Saint Grégoire de Nazianze, ceux qu'on a utilisés pour essayer de prouver la restauration universelle, la conversion de Satan et des damnés, c'est un usage abusif de leur texte. Bon, et alors tous ces gens-là ont été condamnés. C'est quand même gênant, quoi. Quelqu'un qui croit à l'Église, c'est qu'il y a un magistère assisté pour définir le sens de l'Écriture, et tous ceux qui ont dit l'enfer va être visé, les gens vont quitter, ont été condamnés. Alors que c'est embêtant pour eux. Et là, alors il y a une variante, alors je la mentionne seulement, c'est une variante très actuelle que vous pouvez entendre prêcher, et même en chair, ou bien en tout cas en conversation privée, ou dans certains lieux que je ne vais pas nommer, des chaires officielles dans l'Église catholique, beaucoup d'entre elles, peut-être une majorité, je ne sais pas, c'est la théorie qu'il y a un enfer. C'est difficile de dire le contraire, parce que c'est noir sur blanc dans l'Écriture et dans la tradition, mais il est vide. Alors, je vous ai mis en bibliographie, donc c'est comment ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfer. En gros, déjà tout de suite, comme l'enfer est un état, si l'enfer est vide, il n'y a pas d'enfer. Enfin, réfléchissez 5 minutes, hein, refaites votre équation, le robinet qui fuit et qui s'évapore, etc. Hein, et il y a même des jours où ça s'évapore, c'est pas très compliqué. L'enfer, c'est pas un absolu, c'est un état. Si vous dites qu'il est vide, ben, il n'y a pas d'enfer, point. Comme si vous dites un lieu où il n'y a rien, il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas le lieu et Dieu crée l'univers dans le lieu. Il y a l'univers et quand l'univers est créé, le lieu se déploie avec l'univers. Et c'est pareil pour l'enfer. Bon. Donc le truc ne marche pas. Mais alors c'est très répandu parce qu'il y a un grand jésuite, alors là il tout qui a été jésuite, enfin, il a créé la compagnie de Jésus, mais il s'appelait Hans Urs von Balthasar, qui est un des gens qui ont été faits cardinaux par Jean-Paul II avec Conger et Lubach. Et il donnait beaucoup là-dedans. En particulier à cause des l'interprétation qu'il donnait des révélations privées de son âme sœur, Adrienne von Speyer, bon, qui était une mystique, etc. Et lui, il a écrit des bouquins. Alors, il a écrit des tas de choses espérées pour tous. Bon. Et alors, il y a deux prêtres, l'un du diocèse de Versailles, l'autre du diocèse de Paris, que j'ai mis dans la bibliographie, Jean-Marc Bott, qui est du diocèse de Versailles, et Guy Pagès, qui ont écrit contre lui en long, en large et en travers. Donc, je vais aller assez vite là-dessus, je ne reviens pas. Parce qu'il démolit systématiquement tous les arguments. Les interprétations de l'écriture sont fausses, par exemple. Le sens obvie, quand vous lisez dans l'écriture, le jugement dernier, il est dit, il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche. Et c'est au présent. Et puis il est dit, les bons iront à la vie éternelle et les mauvais à la combustion éternelle. L'interprétation, c'est la combustion, c'est pas le feu auquel on passerait au travers, comme chez certains théologiens musulmans. Hein. Et c'est au futur, c'est pas au conditionnel. Alors donc la théorie, vous voyez, il y a c'est des menaces qui ne sont pas appliquées, c'est prendre Dieu pour un prof post-68 tard, quoi, qui est décidé à donner le bac à tout le monde, mais qui vous fait des menaces, et qui dit arrêtez de chahuter, je vous mets 4 heures de colle, j'appelle enfin, je dis, mais non, on ne le fait plus, mais autrefois, on est envoyé chez le directeur, on va aller le double, donc, on balisait à tout le monde, on se faisait engueuler, en plus, on arrive à la maison. Donc, c'était la triple peine, hein. Les tailles, c'est pas la double peine, la triple peine décollée. Enfin, j'ai connu ça, hein. Mais à la fin, c'était efficace, quoi. Puis à la fin, il y en avait marre. C'était tous les jeudis et dimanche matin, en prison, parce que là, pour un gosse, la colle, c'est la prison. Bon, et alors là, ben, si Dieu n'est pas comme ça, Dieu va pas. C'est ce que dit, actuellement, je suis en train de lire le porte de la deuxième vertu de Péguy. C'est un peu long, mais ça vaut la peine, vraiment. Et alors, il dit, ben, Dieu n'est pas venu quand même faire tout ce trajet-là pour nous raconter des histoires comme un sorcier qui nous donne des devinettes, quoi. Ce qui est dans l'évangile, ça arrive, point. Sa sainteté, c'est de dire ce qu'il y a dans l'évangile, c'est ce qui se passe. C'est pas de dire oui, non, il a dit ça pour nous menacer, mais ça n'aura pas lieu. Ben, s'il a dit ça pour nous menacer, il est mal poli, quoi. Comme embêtant pour Dieu, quoi, pour le Fils de l'homme. Ça ne correspond pas à son profil, non pas de carrière, mais humain, tel qu'il se dessine de l'Évangile. Hein, il est tout à fait sincère, on lui a reproché ça. Il était trop direct, tu nous offenses en disant ça. Donc bon, alors bon, tous les arguments sont démolis par... Alors Pagès, il a un inconvénient, c'est qu'il écrit avec des points d'exclamation en toutes les lignes. Judas est en enfer, a des points d'exclamation partout. Bolt, il y a moins de points d'exclamation. Bon, ma femme, vous pouvez lire ces deux bouquins. Il y a quelques trucs un peu folklore dans Pagès, mais enfin, non, ça tient comme... Donc on passe là-dessus, très vite le dogme de sa substance était très ennuyeux, parce que depuis à peu près 50 ans on a peut-être un peu abusé, oui, Bott même il y a peut-être eu un usage un peu terroriste de l'enfer, bon, etc., d'accord. Moi j'ai pas trop connu, mais enfin il paraît. Mais maintenant, c'est un peu l'abus contraire, quoi. C'est-à-dire que c'est une chose qui n'est plus présente, et même on dit vous allez faire peur, vider les églises, et puis vous manquez de miséricorde, on va voir que ça tient pas, parce que les saints sont les cœurs les plus miséricordieux, ont été persuadés de la réalité de l'enfer, son éternité, du fait qu'il y a des gens dedans. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe en enfer? On va essayer de lever un peu le rideau, mais avec prudence, hein, parce qu'il y a de quoi disjoncter, quoi. Alors l'enfer, vous ouvrez la chaudière, vous mettez le doigt dedans, 5000 degrés Kelvin, en fait c'est plutôt 5 millions comme le soleil, et vous le retirez vite fait, quoi. Comme disait le curé d'Ars à quelqu'un, il ne faut pas que ce soit ça trop souvent, quoi. Il faut méditer un peu l'enfer, mais pas tout le temps. Ça dépend des tempéraments. Mais il ne faut pas l'éliminer complètement. Le curé d'Ars, quelqu'un qui se moquait, là, un peu de l'enfer, il rigolait. Il disait, vous verrez mon ami, vous verrez. Le curé d'Ars. Et le François de Fatima, qui était béatifié, si je ne m'abuse, il y a des gens qui rigolaient dans son hôpital, des agnostiques, et ils disaient qu'ils savaient ce qui les attend. Donc moi, ça me fait doucement rigoler quand nos soi-disant miséricordieux s'estiment plus miséricordieux qu'un enfant de 10 ans ou qu'un curé d'un soir. C'est que pour moi, c'est leur miséricorde est une cruauté froide. Ce qui fait que je les déteste, quoi. Le progressiste est détestable. Parce que c'est pas un hérétique carré, quoi. C'est un hérétique qui est un. Il est comme, je vais vous le dire, on parlera du centre de l'enfer où il y a de la glace, non pas du tout. C'est glacial, quoi. Leur charité est glaciale, c'est qu'ils ont une miséricorde qui nous envoie en enfer. Parce qu'ils sont mieux que François de Fatima ou que le curé d'Ars. Chapeau, les mecs. Hein. Faut quand même le faire. Hein. Et en plus, ils sont humbles. Parce qu'ils sont prophétiques. Évidemment, ils n'ont rien compris, mais eux, sont des prophètes. Puis ils partent se marier après, c'est un geste prophétique. 40 000 mecs qui foutent le camp entre 68 et 85, c'est des gestes prophétiques. Et c'est ces mecs-là qui viennent nous dire, attention, moi, je vais vous dire comment faut lire l'écriture. Alors, va te rhabiller chez Plumeau, exit le mec, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La peine du sens. J'étais modéré, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et après, ils vont dire que je dis des gros mots. Ce qui est vrai, d'ailleurs, je ne sais pas mieux. Non. Ça fera du purgatoire, peut-être. Peut-être pas, quand même. Alors, le péché mortel, donc, il y a la peine du sens et la peine du dent. Alors, l'une est terrible et l'autre est encore plus terrible que la première. La peine du sens, attention, elle n'est pas uniquement pour le corps. La peine du sens, elle vient du fait que dans le péché mortel, il y a un double aspect, il y a un détournement de Dieu, qu'on verra dans la peine du dent, et il y a une adhésion indue contre l'ordre de la sagesse divine et de l'amour divin à quelque chose de fini. Et donc, ça nous souille, ça nous détruit. C'est une chose qu'on peut constater, même, je dirais, anthropologiquement, quand on est infirmière, médecin, curé, notaire, kinésithérapeute ou prof de tai chi, et quelques autres variantes, autrefois sous-lieutenant dans la PMS, c'est que, en fait, le péché, ça démolit les mecs. Ça démolit. Parce que vous adhérez à un truc pour lequel qui est trop petit pour vous. Vous voyez, vous démolissez, quoi. Et donc ça, vous, intrinsèquement, votre âme, vous voyez, adhère à quelque chose d'inférieur, et donc ça reflue sur vous et ça vous désaxe, quoi. C'est pour ça que c'est extrêmement... On a déjà une part du châtiment ici, mais bon, le reste, c'est de l'autre côté. Alors donc, il y a une peine d'essence dans l'au-delà, parce que l'homme, vous voyez, s'est attaché de façon indue aux créatures, et donc l'univers se dresse contre lui, parce que tout le but de l'univers, c'est l'âme de l'homme. Vous voyez, les quarks, la théorie des cordes, les quantas, enfin tout ça, tout ce qui interagit, tout cet gigantesque jaillissement qu'on n'aura pas fini de creuser, que le Christ reviendra, qu'on n'aura sans doute pas tranché toutes les théories, mais c'est passionnant. Tout ça n'a qu'un but, c'est de permettre la synthèse carbonique et de permettre d'arriver à un corps humain et à une âme humaine. Et donc si j'emploie ça, vous voyez, le but du monde, c'est l'homme. Et l'âme de l'homme. C'est magnifique de voir ça comme ça. L'humanisme chrétien est le seul humanisme cosmologique. Hein. Et donc si j'abuse des choses, vous voyez, ben les choses se révoltent contre moi. Et donc il y a une peine d'essence. Et c'est une peine multiple qui vient de la matière et qui atteint même les âmes spirituelles, on va voir comment, avant la résurrection, et les corps après, de façon à ce qu'ils, si vous voulez, ils recueillent ce qu'ils ont semé, vous voyez. Et c'est assez logique, parce qu'en fait, ils ont ce qu'ils désirent. Il y a relisé Pascal, vous envoyez, je ne sais pas si vous avez pu lire la pièce jointe, je ne sais pas si c'était bien fait, s'il n'y a pas des petits signes de cabalistiques qui sont mis dedans, non. C'était lisible, la pièce jointe que vous avez envoyée pour le café. D'accord, bon. Donc relisez-la parce qu'elle est très belle. Il y a d'autres passages des pensées où vraiment on voit Pascal dit, écoutez, le gars qui est matérialiste, et bien qu'il adhère à la matière, à la jouissance, et qu'il crève. Il veut la matière, il l'aura pour l'éternité. Il veut la jouissance en disant, il aura les éléments de la jouissance retournés parce qu'il est pas fait pour ça. Mais il l'aura. Ce qu'il souhaite, il l'aura. Ce que vous avez, ce que vous choisissez, vous l'aurez. Choisissez la part que vous voulez. Hein, les pères grecs disent ou bien l'esprit, ou bien le plaisir, enfin c'est le plaisir désordonné, c'est le pergète un peu platonicien, mais on aura ça, bon, et on aura à l'envers, parce que justement la créature montrera sa vraie nature, qui est de servir les fils de Dieu. Donc si on en abuse, elle se retourne contre nous, et un peu comme si quand un amour a craqué, vous voyez, l'être qui était plus aimé devient plus, dans les grands drames affreux, etc., il est haï, parce que d'ailleurs il n'est plus objet de jouissance, il est contraire, si vous voulez. Il continue à être aimé sous un aspect, mais il n'est plus affectif, etc. Et vous voyez, on peut déjà ici-bas, je crois, avoir une idée un peu de ce qu'est l'enfer dans ces trucs qui se brisent et où on passe, si vous voulez, de l'amour au meurtre. Enfin, au meurtre dans certains cas, quand il y a un bouquin écrit, dans la réalité parfois. Mais même sans passer au meurtre, dans sa tête, on a tué, quoi. Et on a tué souvent parce qu'on aimait, que seulement l'objet de l'amour ne correspond plus à l'ouïssance qu'on voulait en tirer, etc. Et c'est ça la peine de sens. Alors les pères pensent que qu'elle sera variée, enfin notre Seigneur parle de différentes choses, et on verra la description de Thérèse d'Avila, dans le chapitre 32 de son autobiographie, qui en dit quelque chose. Mais la peine principale, c'est le feu. Alors c'est un feu qui, semble-t-il, n'est pas purement métaphorique. Il semble que c'est vraiment un feu qui, vous voyez, qui est réel, en ce sens que c'est quelque chose qui est distinct de la douleur qu'il cause. D'après les descriptions de l'Évangile, d'après aussi la vision de Fatima, d'après les réflexions des théologiens, par exemple le mauvais riche qui apparaît avec Lazare le pauvre, etc., dit « Je suis cruellement torturé dans cette flamme ». Alors le pape interprète de façon un peu souple cette... comme une espèce de parabole, mais beaucoup de pères ont interprété ce texte comme vraiment une vision de l'enfer. C'est comme tout être inferno, le mauvais riche étant enterré dans l'enfer. Et donc voilà, et il est dans cette flamme qu'il torture. Donc il y a une cause, si vous voulez, qui est que la matière, en fait, c'est un feu qui est un peu différent de nature du feu ici-bas, mais qui est quand même, si vous voulez, une réalité physique auquel l'âme d'Anner, avant même la résurrection, se trouve liée. Et de même, vous voyez que l'âme liée au corps aime son corps de façon véhémente. Tant qu'on est vivant, c'est impossible de ne pas aimer son corps. Parce qu'il est vraiment, il nous est uni à un degré, c'est la partie de la matière qui nous est plus unie. Et bien, de même là, l'âme va se trouver ligotée au feu, un élément matériel inférieur qui va lui imposer son lieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la liberté d'un esprit, vous voyez, le corps ressuscité, il y a une âme glorieuse, il y a un corps qui est pénétré, si vous voulez, par le dynamisme spirituel de l'âme, et qui va où on veut, et qui traverse ce qu'on veut, qui fait ce qu'on veut, etc. Donc vous voyez, le corps est complètement au service de l'âme. C'est-à-dire que dans l'autre cas, en fait, l'âme se trouve liée à... Le feu impose son lieu à l'âme. Et donc l'âme appréhende ça, et se trouve, si vous voulez, au contact d'un truc qui lui est lié un peu comme le corps avec l'âme, enfin de façon un peu différente, mais de façon extrêmement forte, et elle la prend comme nocive. Et j'étais toujours frappé en réfléchissant à ce point-là, que quand saint Thomas décrit ça, et que vous lisez, je ne l'ai pas recopié ici parce qu'elle est assez connue, la vision de l'enfer de Lucie de Fatima, dans une des apparitions, quand les mains de la Sainte Vierge touchent, qu'il y a la lumière qui sort, et le sol s'entrouvre, et il voit les démons et les âmes en enfer, eh bien c'est drôle, mais enfin c'est pas drôle, mais c'est terrible, mais enfin c'est tout que c'est... C'est exactement, les âmes sont sans poids, sans équilibre, comme les étincelles dans les grands incendies. Une fois, j'étais en Suisse, sur le toit de notre monastère, et à côté, il y avait le feu, dans une fabrique de, je ne sais pas quoi, de bière, sans doute, ou de fromage, bon. Mais alors, il y avait des flammes qui montaient, je crois, 70, c'était incroyable. Alors évidemment, c'est un beau spectacle, belle méditation sur l'enfer à 2h du matin. Et alors, ce qui était impressionnant, c'est la chute des étincelles. Et en voyant ça, je pensais vraiment à ce que décrit Lucie de Fatima, elle retombait sans poids comme les étincelles dans les grandes incendies. C'est que c'est le feu qui leur impose leur situs, leur lieu, etc. Et elles sont complètement ligotées à un truc qui leur est complètement nocif. Oui. Donc c'est cette peine principale qui est la peine du feu. Et donc, après le jugement dernier, la résurrection universelle, et les damnés ressuscitent pour recevoir un corps... qui ne mourra plus, c'est incorruptible, parce que je vous ai montré que la résurrection est universelle en vertu du fait que le Christ a pris la nature humaine et que tous les hommes ont la nature humaine. Donc le Christ, par son pouvoir de créateur, va restituer d'un seul coup toute la nature humaine dans son état de vie. Pour la vie éternelle pour les élus, pour la réprobation éternelle pour les damnés. Ou pour un état naturel de bonheur pour les enfants dans les limbes, selon la position classique ancienne que je suis. Bon, mais donc il ressuscite tout le monde. Même ceux qui n'ont pas cru en lui. Seulement, les élus ressuscitent, on verra au mois de juin, comment ils ressuscitent, et les damnés, ils reçoivent une provision indéfinie pour ce supplice, ils disent les pères de l'Église. Je n'ai pas accumulé les phrases, parce que comme je vous l'ai dit, s'il y a des cardiaques parmi vous, c'est absolument abominable. Si vous lisez ce que disent les pères de l'Église, actuellement on nous dit, surtout Lubac, hein, des jésuites qui était fait cardinal par Jean-Paul II, retour aux pères de l'Église. Ben, je suis assez étonné que ce ne soit pas ces textes-là qu'on nous met sous les yeux. Lisez tous les... Saint Maxime le Confesseur, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Nazian, Saint Basile, avec la... Saint Basile parle de la flamme qui est coupée en deux, c'est-à-dire qu'elle a la propriété de brûler, mais pas d'éclairer agréablement. On va voir, ça correspond à la vision de l'enfer de Thérèse d'Avila. Donc, si vous voulez, c'était quand même assez hard, la théologie des pères de l'Église. Hein. Et la position de Saint Thomas, par exemple, sur les limbes, est un adoucissement de la vision des pères, en particulier celle d'Augustin. Donc, quand on attaque Saint Thomas et la scolastique, et ben là, on ne fait qu'exciter la fureur... est assez facile à exciter d'ailleurs, mais contre eux c'est de la saloperie, parce que la scolastique a mis en forme, adouci, humanisé les grandes intuitions jaillissantes de ces génies qui étaient les pères de l'Église. Donc la nouvelle théologie des jésuites de Fourvière et tous ceux qui leur ont marché après depuis 45 a été dire, ah ben la scolastique vise les pères de l'Église, à qui ils les lisent au moins les pères. Donc tout ça c'est des, c'est des coyoteries à foie jaune, parce que ça ne marche pas du tout. Ça fait que démolir, ça ne construit pas. Il faut revenir au père de l'église, mais il ne faut pas éliminer la scolastique qui est un progrès. Et Saint Thomas en particulier, bon, met tout ça en place, voilà. Donc il y a cette peine d'essence qui affecte tout l'univers, si vous voulez, le lieu, l'odeur, etc. Enfin, tout ce qui est après la résurrection, surtout. Mais déjà, même avant la résurrection, l'âme, si vous voulez, est châtiée par l'élément sensible de l'univers. C'est ça qui est important de comprendre. Et là, je vous ai mis une description, grâce à des petits malins sur Internet. J'ai trouvé ça gratuitement. Donc, j'ai pu coller le chapitre 32 de l'autobiographie de la Vida de la Madre, donc, qui était la vie, sa vie par elle-même. Au chapitre 32, elle raconte donc sa vision de l'enfer. Alors, vous lirez ça, je n'ai pas encore tout mis. Il y a une partie qui concerne plus directement la peine d'essence, mais il y a une partie avant ça où elle dit « J'avais lu des choses sur l'enfer, quoique rarement, car la voie de la crainte ne correspond pas pour mon âme, mais tout ce que j'ai lu me paraît comme une peinture sans relief par rapport à ce que j'ai souffert. » Et elle a eu une sorte de... Comme Sor Josefa Menendez, qui est une religieuse passée italienne et mexicaine, mais qui a écrit une œuvre intéressante, s'appelle « L'appel à l'amour », qui était préfacée par le cardinal Pacelli, qui était comme quelqu'un de sérieux, il n'était pas spécialement rigolo. Hein, et donc il était sérieux, c'est un homme très bon, très rayonnant, mais donc s'il préfère ça, c'est un bourreau sérieux. Et elle aussi, elle est descendue spirituellement en enfer. Enfin, moi, j'abuse pas trop de ce genre de révélation privée, mais quand ça recoupe la théologie, ça vaut la peine, parce que c'est plus vivant. Et donc la mère explique donc que maintenant, une fois qu'elle a vu ça, elle a l'impression que toutes les douleurs qu'elle a dans ce monde, y compris les immenses douleurs corporelles qu'elle a, c'est pas grand chose. Oui. C'est comme Mère Teresa, vous voyez, c'est un exemple de miséricorde. Mère Teresa, c'est quand même pas mal comme miséricorde. Et la mère Teresa disait aux religieuses, aux gens qui trouvaient gna gna, c'est trop dur, on a fait et tout, il dit, mais si vous préférez le feu de l'enfer, elle disait, c'est moins dur que le feu de l'enfer. C'est mère Teresa. Il faut dire que tous les prédicateurs des retraites, c'était des jésuites. Donc, de l'ancienne école, hein. Donc des jésuites qui vous enseignaient un peu l'enfer pour vous réchauffer un peu, pour vous pousser vers l'amour, évidemment, mais enfin, quand même, un petit coup d'enfer, ça faisait pas de mal. Donc voilà. Et donc, cette description est effroyable, mais je crois qu'elle est une question évidemment très imagée, hein. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ça recoupe quand même les données fondamentales de la théologie. Et puis cette idée que l'univers est fait pour l'âme. Donc vous voyez, peine du sens, avec tout un passage, et cette histoire qui sont entassées, vous voyez, de ce manque de place, enfin, c'est aussi dans l'écriture, hein, ils sont tassés comme des brebis, avec dans les bergeries, enfin, si vous êtes dans la montagne, ça arrive aussi, on tasse au maximum, c'est pas très grand, mais en Palestine, ça devait être la même chose, il y avait des grandes bergeries communes, et il fallait tasser pour mettre des centaines de brebis. Donc elles étaient comme ça, saucissonnées, on compare ça à l'enfer, vous voyez, parce qu'en fait, tout le monde se gênera, quoi. Parce que la société, il n'y aura pas de société, enfin, on le verra dans la peine du dent, c'est une dissociété absolue. Hein, l'enfer, c'est les autres, ça sert qui est peut-être un enfer, enfin, non, il faut prier pour, mais il a vraiment fait ce qu'il fallait pour y aller, quoi. Il a dit, l'enfer, c'est les autres, c'est pour les damnés, c'est vrai, c'est un aspect de l'enfer. Et en fait, tout le monde est ennemi de tout le monde, quoi. Et donc, là aussi expliqué, c'est logique, oui, c'est logique, parce qu'en fait, l'être humain est un être communionnel, ou un être relatif. Et donc, il s'épanouit dans la relation. Alors, il ne faut pas aller jusqu'à dire que, par exemple, un embryon qui n'est pas né n'est pas humain. C'est ce que disent certains progressistes. Parce qu'il n'a pas de relation, donc il n'est pas humain, donc je peux le tuer. Non, mais tout être humain est potentiellement en relation. Et donc, la dignité de l'embryon est infinie, parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir rentrer en relation, ne serait-ce qu'avec Dieu. Vous voyez ? Et l'handicapé, pareil. Il faut faire attention, parce que si vous dites que l'essence de l'être c'est la relation, et ben vous tuez les handicapés, vous pouvez éliminer les autistes, et puis etc. quoi. Et c'est pour ça que certains disent que Satan n'est pas une personne. Parce que les progressistes disent ça. Parce qu'ils disent que la personne est essentiellement relation, Satan est celui qui n'a pas de relation, qui est tellement égoïste qu'il n'a pas de relation, donc c'est pas une personne. Ça c'est un sophisme. Hein, il a bien une relation avec lui-même, et il a une relation aussi de persécution avec les autres et de domination des autres démons. Mais c'est vrai qu'il s'enferme sur lui, il brise la relation fondamentale à Dieu, et donc il est dans l'état du dent qu'on va essayer d'évoquer ici. Et donc il est contraire à la vocation fondamentale de la personne qui est relationnelle. Et donc quand on a raté cette vocation sur la terre en utilisant les autres comme des moyens de jouissance, d'enrichissement, etc., de domination, eh bien on les retrouve en enfer comme un instrument de châtiment, ce qui est tout à fait logique. Donc déjà ça arrive ici dans la vie quelquefois, quand on démissionne de ses responsabilités éducatives ou de chef, etc., on a le retour... parfois, pas toujours, on retourne immanent de... Voilà. Alors ensuite, que dit Sainte... Alors on passe déjà, avant même d'aller à la suite, j'ai mis la fin de la citation de Sainte Thérèse, c'est déjà la peine du dent. Là, vous pourrez la lire attentivement. Je suis obligé de mettre un corps 11. Vous allez pour les ignobles comme moi, mais c'est comme ça qu'on a de mettre plus de texte. Donc voilà. Alors elle dit, toutes les souffrances sont terribles, mais elles sont petites par rapport à la peine du danger. Ça, c'est important de comprendre. Oui. C'est important. Saint-Jean Chrysostome dit, la gêne est terrible. Saint-Jean Chrysostome, avec son nom, veut dire bouche d'or en grec. Hein. C'est un des plus grands prédicateurs de l'histoire de l'humanité. Il a beaucoup prêché sur l'enfer, à la cour des calendes de Constantinople, entre autres, qui lui a valu d'être exilé un certain nombre de fois. Et donc, il disait, la gêne est terrible, mais ce n'est rien en comparaison du fait d'être maudit de Dieu et de la peine du dans la gêne, c'est la peine du sens. Oui. Et il disait, vous moquez de la prédication de l'enfer, mais sachez que tous ceux qui méditent sur l'enfer pourront éviter la gêne, mais ceux qui s'en moquent iront. Et en enfer, dans les visions, il y a pas mal de gens qui ne croyaient pas. Voilà. Bon, donc c'est un peu la, c'est là où le rideau se déchire, hein. C'est la réalité, quoi. Bon. Alors la peine principale dans l'enfer, c'est, ça correspond au fait que l'âme s'est détournée de Dieu. Non seulement elle a adhéré à une créature de façon désordonnée, c'est-à-dire qu'elle a pris, parce qu'une créature est toujours un bien, on prend des choses sous l'aspect de bien. Même, vous voyez, le révolté qui pêche par malice, il a le bien de sa révolte, car il est plus fort que les autres en révolte. Je suis le premier en révolte. Je suis plus fort, je me révolte plus que les autres. Bon, donc c'est un bien, mais c'est un bien désorbité, quoi. Et le mal, c'est ça. C'est toujours un certain bien, mais qui est pas dans l'ordre. Donc on accepte le désordre. Voilà. Le mal moral, c'est l'acceptation d'un désordre, de justice par exemple, lié à la possession d'un bien sensible, d'honneur, etc. Alors donc on adhère à ça de façon désordonnée, mais en fait surtout on se détourne de Dieu pour ça. C'est parce que Dieu étant notre fin véritable, le fait d'adhérer à un bien fini, c'est une apostasie de notre finalité. Le péché mortel, c'est de dire que l'homme est fait soit pour une jouissance physique, bestiale, comme dit Saint Aristote, Saint Thomas après lui, soit pour uniquement l'exercice du pouvoir dans la vie morale ou politique, soit pour l'art, soit pour ce état, et qui n'est fait que pour ça, qu'il n'y a rien de plus. Quoi. Et là, c'est faux, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur choisie, si vous voulez. Parce que l'homme sent bien qu'il est fait pour plus que ça. Même Napoléon, vers la fin de sa vie, a eu quelques doutes quand même sur le but de la vie, non ? Claire, je ne sais pas, mais... Parce qu'on dit quand même, c'est bien joli de dominer et tout, mais on va crever comme un chien, comme les autres. Hein. À la mort, vous savez, vous ayez été des beaux quartiers de Versailles, du 16e ou du... pas quel quartier à la mode à Paris maintenant, 7e, ou bien que vous ayez été dans un HLM et tout, fondamentalement, on est tous morts. Hein. On est tous aussi morts les uns que les autres. Hein. C'est pas comme dans l'égalité moderne, tout le monde est égaux, mais il y en a qui sont plus que les autres, là. En enfer, on est tous aussi morts que les uns que les autres, tous aussi jugés, les papes, les rois. Et ça, c'est bien, parce que ça remet un peu les pendules à l'heure. Vous savez, tout ça, c'est l'ordre social est important, mais c'est un échafaudage pour construire le ciel. Donc, il faut respecter l'échafaudage, il ne faut pas le secouer par le bas. Alors, disait sur Nietzsche, hein, les révolutions, ça rate, ça fait qu'elle accroître le maintenant. Mais c'est un échafaudage, après. Bon, donc le damné a persévéré dans le choix d'un bien fini contre l'ordre de la sagesse divine. C'est pas seulement contre un ordre arbitraire de Dieu. Récemment, nous on fait des petits chapitres conventuels avec les pères qui ont... ceux qui ont fait profession perpétuelle, et là le père qui plongeait la dernière fois nous a fait un exposé sur l'islam, enfin deuxième partie d'un exposé, et en fait c'est vraiment intéressant de voir que en islam il y a plus des jurisconsultes ou des voilà des gens comme ça, des juges, que des théologiens, parce que l'essentiel est d'arriver à voir ce qui a été dit par le Coran et par les hadiths, enfin l'ensemble des recueils des paroles attribuées à Mahomet ou les faits de Mahomet. Et une fois qu'on a pu prouver que c'était, peu importe le contenu, vous voyez, il faut y obéir comme une volonté de Dieu absolue. Mais donc ce qui compte uniquement, c'est que Dieu ait donné un ordre. C'est bien parce que Dieu a donné un ordre. À la limite, Dieu pourrait donner l'ordre de faire des choses absurdes, et bon, mais c'est pas grave. C'est ce qui n'est pas le cas dans la majeure partie du Coran, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est la volonté de Dieu. C'est sans christianisme, l'essentiel, c'est la sagesse de Dieu. Quand Dieu nous donne un commandement, il déploie d'abord la nature des choses. Quand Dieu donne le décalogue, c'est le code de la route d'un animal raisonnable. Et quand Dieu nous appelle la vision béatifique, c'est l'hyper-espace, l'hyper-code de la route de quelqu'un qui peut nous appeler à passer à l'étage supérieur, etc., à passer la surmultiplier, bon, etc. Mais c'est selon quelque chose qui est raide, qui est sage, vous voyez. C'est très important, ça. Donc le damné choisit contre la sagesse divine un bien fini, vous voyez. Et donc, il veut le bonheur toujours sans limite, parce qu'on veut toujours le bonheur. On ne choisit pas de souffrir ou de pour soi. Si on choisit de souffrir, c'est pour un bien, c'est le dentiste, bon, pour le bien de la guérison, etc. Mais donc, lui, il veut le bonheur, mais il veut le bonheur contre la loi divine, qui est une loi quand même d'humiliation, d'obéissance, de respect, d'effort, etc. Hein, et surtout, je crois, de naïveté, enfin de simplicité. C'est les enfants qui vont au ciel. Finalement, c'est plus facile, d'une certaine façon, d'aller au ciel que de se damner, parce que, quand même, Dieu sait ce qu'il fait, quoi. Le damné, il est damné déjà ici-bas, quoi. Alors, il n'est pas complètement heureux ici-bas, et il est malheureux éternellement. Est-ce que l'élu, évidemment, il souffre ici-bas, mais il n'est pas, l'élu n'est pas malheureux. Mais la souffrance n'est pas une misère. Le saint est quelqu'un qui souffre, mais qui n'est pas mal, il n'est pas misérable. Hein. Très différent. Donc, il n'a pas ici-bas tous les bonheurs qu'ont d'autres, mais il a dans son cœur quelque chose. Bon, donc voilà. Alors, la damnation, donc j'ai mis la définition du catéchisme de l'Église catholique, c'est un état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu. Et vous voyez, on a choisi ce bien fini, et voilà. Et on a choisi parce qu'on veut s'accomplir là-dedans, point. Donc, j'ai rajouté une deuxième phrase du catéchisme qui se trouve plus loin, il y a des références, sur un autre sujet. Mais ce n'est pas une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur, mais elle découle de la nature même du péché. C'est ce qu'on a déjà vu avec Catherine de Sienne, et c'est ce qu'on va voir pour la damnation. C'est la nature même du choix délibéré d'un bien fini qui fait que l'âme est elle-même déjà dans la damnation. Si je suis en état de péché mortel, je suis déjà en enfer. Il vaudrait peut-être mieux que je me réveille avant de découvrir le visage grimaçant de Satan et ses séides autour de moi. Parce que c'est ça, en fait, la mort du damné, c'est ça. Quand on dit dans les films va en enfer, un go to hell, c'est pas spécialement chrétien, quoi, comme disons. Hein. Faut pas souhaiter ça, comme disons. À tout de suite en enfer, tu parles. Le mec qui a le front de dire ça, vous voyez, bon, peut-être qu'il y a des gens qui le disent, mais donc il se cramponne déjà par la haine. Bien le bonjour en enfer, ça c'est dans les westerns de macaroni, bien le bonjour en enfer. Parce qu'ils en parlent, enfin, dans cette civilisation-là, on croyait encore en Dieu, tout ça, donc on parle. Alors, donc, je vais essayer de vous décrire un peu les différentes facettes du dent. De la peine de la damnation, ça veut dire un mot qui veut dire qu'on est privé d'eux. Le dent, c'est qu'on est privé de ce pour quoi on était fait, qui est le bonheur infini, qui ne se trouve qu'en Dieu. C'est pour ça qu'il y a une damnation. Voilà. Bon. Alors, le premier, je tâche d'employer différentes approches pour le faire comprendre. C'est d'abord une solitude. Et ça, c'est ce qui est peut-être le plus effrayant. Une solitude, une incapacité radicale d'aimer, un isolement infini. Je vous avais lu le texte du Starets Zosim, là, dans les Frères Karamazov. Qui disait un jour une créature dans l'infini de l'espace et du temps s'est trouvée avec la possibilité d'un amour gratuit, elle a pu aimer gratuitement sans en tirer des avantages, et elle a méprisé cette capacité, elle n'en a fait aucun cas, elle a été ironique vis-à-vis de ça, et elle découvre, c'est sûrement un commentaire du mauvais riche dans le feu, et elle découvre qu'elle ne peut plus aimer gratuitement. Elle aime toujours, mais elle aime de façon purement intéressée. Donc la part la meilleure de l'homme n'a plus d'exercice. Alors je vous ai recopié ici deux passages, l'un de Catherine de Sienne, qui est un passage du dialogue, qui signifie que l'homme est tissé en amour. Vous voyez, l'âme ne peut vivre sans amour, il faut toujours quelque chose à aimer, dit Dieu à Catherine, car c'est d'amour qu'elle est faite. L'homme est fait d'amour. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ça l'intuition un peu juste dans les philosophes un peu modernes, un peu existentialistes, l'homme est fait pour la relation. Bon, il existe, il peut refuser la relation à l'autre, mais il est tellement fait pour ça qu'il ne peut pas le faire. Il déprime et il meurt, enfin il meurt au moins spirituellement. Donc vous voyez, l'homme est fait pour l'amour. Donc, alors en enfer, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je vous ai mis le passage célèbre pour les anciens, ceux qui lisent le journal du curé de campagne, de Bernano, je n'ai pas mis la référence, vous la trouverez. C'est dans le dialogue du curé avec la chapelaine. Et il y a ce fameux passage, l'enfer c'est de ne plus aimer. Alors, il faut bien comprendre. Parce que... Faut bien comprendre tout le contexte que Bernanos met ça. L'erreur commune à tous est d'attribuer à ces créatures abandonnées, donc évidemment à la force littéraire de Bernanos, hein, qui était un peu comme le romancier du mal, mais enfin, c'est de l'espérance aussi. Hein. Bon, attribuer à tous ces créatures abandonnées quelque chose encore de nous, de notre perpétuelle mobilité, alors qu'elles sont hors du temps, hors du mouvement, fixées pour toujours. On en avait parlé, dans l'état de l'âme séparée. Et là, si Dieu nous menait par la main, alors c'est un peu ce que Dante a fait. Accompagné par Virgile en enfer, le purgatoire, et après par Saint Bernard pour le paradis. Il a été pris par la main, et je vous ai dit que Gardini pensait que c'était une vision, enfin, peut-être une imagination poétique, mais enfin c'est bien vu. Le Dante, c'est quand même assez fortiche. À la fois, c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature poétique mondiale, et puis c'était vraiment un auteur théologique. Alors, donc, si quelqu'un, Dieu nous prenait par la main vers une de ces choses douloureuses, eût-elle été jadis l'ami le plus cher, quel langage lui parlerions-nous? Partager son sort, le malheur, l'inconcevable malheur de ces pierres embrasées qui furent des hommes, c'est qu'elles n'ont plus rien à partager. Ouais, ils sont totalement heureux. De même, vous voyez, quand vous avez des états de dépression ou d'enfermement, si vous voulez, on dit, on sent que les personnes passent au-delà, il n'y a plus de communication. Quoi. Ils sont vraiment enfermés sur leur souffrance. Et souvent, Dieu envoie une deuxième souffrance si légère pour les faire sortir de là. Récemment, je voyais une veuve qui avait perdu son mari il y a quelques mois. Moi, je lui demandais un peu des nouvelles et tout. Mais là, je suis quand même déprimé et tout. Enfin, pas déprimé, mais abattu. Je dis, mais est-ce que vous faites quelque chose que vous... Vous engagez, est-ce que vous avez une activité? Oui, pour aider les autres, j'attends d'être mieux. Et je lui dis, écoutez, prenez conseil de votre confesseur, de votre psy, si vous en avez un. Mais moi, je n'attendrai pas d'être complètement bien pour aider les autres. Parce que j'ai remarqué, ça ne vaut pas pour tout le monde, mais dans beaucoup de cas, c'est avant la guérison complète, qu'en s'occupant de celui qui est plus malheureux que moi, j'ai comme c'est la seule déviation possible par rapport à une grande souffrance. Vous voyez, parce qu'il y en a des plus malheureux que moi, il y en a. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est un fait d'expérience. Alors, bon, j'en ai dit ça à un père, mais vous avez peut-être été un peu fort. Et elle m'a dit, ah ben, je vais y réfléchir. Mais je crois qu'elle ferait bien, parce que vous voyez, je lui dis, moi, c'est ce que je fais quand j'ai pas le moral dans les chaussettes. Je vais lire un machin sur l'aide à l'église en détresse, puis je vois des mecs vraiment torturés et malheureux. Et ça me redonne une pêche formidable. Non pas qu'ils soient torturés, mais que je me dis, bon, quand même, moi, faut que je me tienne quand même un peu. J'ai des grands frères qui sont quand même. Après, ils vont me dire, allez, petit frère, qu'est-ce que tu fais? T'es trop cool là-bas en Mayenne. Au milieu, c'est 720 000 vaches, hein. Mais il n'y a pas d'eau et tout. Bon. Alors, non, mais vous rigolez, faites comme vous voulez. Mais c'est sûr que de s'occuper du malheur d'un autre, c'est une façon de sortir. Quoi. Mais pas le bonheur, c'est pas la peine d'aller des petits sous-bonheurs quand vous avez perdu l'être que vous aimiez dans le monde. C'est pas un petit sous-bonheur qui vous fait quelque chose. C'est au contraire le malheur d'un autre. Bon, ça, c'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, donc, mais en fait, le damné, non. On ne peut pas communiquer, vous voyez. Parce qu'il a justement, il est dans l'état d'auto-exclusion radicale et définitive. C'est important, vous voyez, si on nie ça, je crois qu'on nie vraiment la profondeur de l'homme. Et en fait, ça prouve qu'on n'est pas très malin, c'est pas très psychologue. Bon, en plus c'est révélé, bon. Enfin, déjà, je crois psychologiquement, on peut s'en rendre compte. Donc il y a la solitude, ensuite il y a le déchirement. Donc le déchirement, vous le trouvez bien écrit par Thérèse d'Avila. Le déchirement, c'est-à-dire qu'on s'arrache soi-même l'âme, c'est pas un autre qui vous prend avec les pinces comme dans les supplices que subissait. Mon père avait ramené d'Extrême-Orient un bouquin de supplice. Le supplice, c'était utilisé civilement, hein. Dans le pays où il avait été. Ben, j'aimerais vous dire que ça vous... Je ne sais pas si j'avais le droit de le dire. Mais ça vous glace. Hein. Mais c'est impressionnant. Mais non, mais ça, c'est des angles d'extérieur qui vous torturent. Mais là, c'est vous-même qui vous arrachez l'âme parce que vous voulez être heureux. Il y a un passage de Sertilange que j'ai mis dans mon bouquin. Le damné aime Dieu, mais d'un amour pour en jouir. Et il le hait autant qu'il l'aime. Vous voyez, parce qu'il ne veut pas de la loi de Dieu qui supposerait qu'il s'humilie. Quoi. Et il ne veut pas. Et comme dit Molinier très justement, vous voyez, si ma volonté n'est pas éternelle, eh ben je suis pas libre. Parce que si je suis forcé, au bout d'un certain temps, de devenir une enfant de Marie, je suis pas libre. Tu seras une enfant de Marie dans 6 milliards de siècles, pas de problème, tu seras tout mignon, tu feras des tas de dévotions à Sainte Gudule et aux saints qui font clic et machin horrible, gagne-nous. Il a raison, enfin, je dis pas qu'il a raison, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quoi. Il faut pas forcer les gens à être cucu la praline s'ils veulent pas, ou cucu la praline, ou intelligemment naïf comme les enfants de l'évangile. Mais vous voyez, il faut pas les gens, il faut quand même dire, respecter un peu l'homme. Et Dieu respecte, les saints respectent la liberté. Bon, donc il y a ce déchirement, puis il y a l'endurcissement. Un endurcissement éternel dans le refus. C'est-à-dire que l'âme a choisi. Et le père Bott, à la fin de son livre « Osons reparler de l'enfer », a reproduit ce qu'on appelle le manuscrit de l'enfer, qui est mal appelé, à mon avis, c'est fait par un curé assez malin, qui connaît bien saint Thomas et qui sait écrire. Je crois qu'il a été écrit en allemand. Mais c'est vraiment, quand vous lisez, c'est vraiment l'impression d'un récit. Hein. Mais à mon avis, c'est trop cousu de saint Thomas pour que, bon... À mon avis, ça va pas être une histoire vraie. Mais quand vous le lisez, vous avez vraiment l'impression que c'est l'histoire de la damnation d'une femme qui extérieurement paraît assez bonne âme. Et à un moment donné, son père est en train de mourir dans une pièce, dans la maison où elle se trouve, et là, un mouvement intérieur va vers son père, prie pour lui. Et intérieurement, elle repousse, elle dit qu'il crève. Et à partir de là, sa vie, déjà, elle était dans le mal, dans le péché. Mais c'était sans doute le dernier signal que Dieu lui envoyait. Elle avait déjà eu l'intuition d'aller à la messe, elle avait refusé. Et là, sa dernière intuition, c'était de prier pour son père qui est en train de mourir, qu'on a retrouvé mort sur le sol de la pièce le lendemain. Et donc, à ce moment-là, elle a choisi elle-même qu'il crève, quoi. Donc, elle a choisi. Et ensuite, bon, elle est morte dans un accident par miséricorde. Parce que Dieu met fin aussi à la vie du gars qui rentre là-dedans pour qu'il ait moins de péchés et qu'il soit un enfer. Donc tout ça est très simple, il ne faut pas rentrer en jugement avec Dieu, oui, il y a une tendance très répandue. Tu dis, hey, Dieu, viens là un peu là, on va faire un symposium interreligieux, on va voir si tu passes l'examen là, est-ce que vraiment tu as une mentalité d'ouverture, est-ce que tu es intelligent, est-ce que tu es miséricordieux, est-ce que tu comprends l'autre en tant qu'autre, viens là un peu, bonne ma peu. Mais réfléchis un petit peu, non. C'est quand même plus soumet parce que c'est. Voilà, donc ce manuscrit de l'enfer, c'est assez bien fait. Alors le châtiment est proportionnel à la gravité des fautes. Hein. Il ne faut pas croire, le gars, si vous faites un péché mortel, ben, confessez-vous, faites un acte de confession, et puis arrêtez de faire des péchés mortels. Ne faites pas un deuxième en disant, ben, de toute façon, puisque je suis damné, ben attendez, je ne dis pas attendez d'y voir, hein, mais. Non, pas du tout. Hein. Moi, c'est une des consolations aussi du ministère, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui se convertissent et qui ne sont pas sauvés. Par les femmes qui semblent bien. Ils se convertissent, puis après, ils relâchent, quoi. Voilà. Mais tout ce qu'ils ont confessé avant ne sont pas punis pour ça. Et c'est quand même une différence. Hein. C'est quand même une sacrée différence. Donc c'est pas perdu. Donc en tout cas, ne mettez pas les péchés les uns sur les autres. Hein. Parce que c'est proportionné. Et alors vous avez sur le. J'ai reproduit le quatrain à peu près complet. Quand Dante est accompagné donc, par Virgile pour aller explorer les antres infernaux, il rentre dans une. Il y a un frontispice. Hein. Et donc sur ce frontispice, il y a la porte de l'enfer qui parle. Permessi va tra la città dolente. Par moi on va dans la cité dolente. Permessi va nell'eterno dolore. Par moi on va dans l'éternelle douleur. Permessi va tra la gente perduta. C'est effroyable. La gente perduta. La gente perduta. La perdue. Quoi. Et c'est que t'as plus à fond, vous voyez, c'est comme le cauchemar, vous êtes perdu, quoi. On sort pas, quand on a un cauchemar, on se réveille. Donc il faut aller au boulot. Mais on va voir, on se dit, ah bon, le cauchemar. Mais là, c'est le cauchemar éternel, c'est-à-dire qu'on est perdu, quoi. Et c'est on est désorienté, quoi. Et perdu parce que l'homme était fait pour Dieu et il n'y a plus de Dieu en enfer. Hein. Et à la fin de ce passage, il y a marqué, voi qui entrate, vous qui entrez ici, baciate ogni speranza. Laissez toute espérance. Donc le dépôt total de l'espérance, et l'homme est vraiment la créature qui espère. Hein. Même dans un camp de concentration, c'est frappant quand on lit ça à froid, on se dit quoi, le fait qu'il y avait trois grumeaux dans la soupe, ça changeait toute la journée. Quoi. On regardait la densité de la soupe, on tâchait d'être dans les premiers pour pouvoir, ou les derniers pour avoir le fond. Mais ça changeait tout. Et on se dit, mais quand on voit ça dedans, c'est quoi, un grumeau de plus ou moins, mais attends, pour un gars qui est à moins 30, ça change tout. Et l'homme, c'est effrayant, l'homme est vraiment, enfin, c'est magnifique. C'est l'homme, c'est vraiment l'être d'espérance. Dans un enfer, justement, on a fermé toutes les portes. Et justement, la fenêtre de l'enfer, c'est notre volonté propre qui a cadenassé et qui a fait l'enfer. Et donc, les damnés sont là et ils auront dans leur esprit, si vous voulez, c'est là-dessus que je termine ma deuxième instruction sur l'enfer, la peine du damné. J'essaye de mettre un peu en scène, de façon un peu poétique, la scène du jugement dernier. Et en fait, les damnés auront ça dans. Ils n'auront pas une connaissance intime de la gloire des élus, mais ils sauront que leur gloire est ineffable. Et ils verront ceux qui l'ont persécuté. Alors vous avez le Christ, autour de lui, ses prêtres, c'est les élus, ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont abandonné le monde, vous voyez, ceux qui ont misé sur l'évangile, soit les religieux, soit les personnes qui vraiment misé que bon, leur vie, ça a été ça. Et bien, ils sont autour de lui et ils sont les assesseurs du jugement. En ce sens que leur simple vue est une condamnation pour les réprouver. Et déjà, ici-bas, c'est un peu ce qui se passe. Hein. Mais là, ceux qui ont été persécutés, ceux dont on s'est moqué, ceux qui étaient les suckers, les losers, les minables, eh bien, ils sont comme des princes dans la cité de Dieu. Il y a tout un passage de la Sagesse qui est magnifique. Hein. Ergo et ravimus, ainsi nous nous sommes trompés, le soleil de l'intelligence n'a pas lieu pour nous. La lumière de la justice ne s'est pas levée dans notre cœur, hein, et nous sommes trompés pour l'éternité. Et c'est juste là que nous avons méprisé, ils sont les fils de Dieu comme des soleils. Donc il y aura cette vision de l'humanité enfin arrivée à son terme, l'humanité sauvée et divinisée par le Christ dans cette partie-là, et puis l'immense masse des réprouvés qui n'ont pas voulu recevoir ces efforts sans cesse renouvelés du Sauveur, parce que pendant toute sa vie... pendant ensuite toute l'histoire de l'Église, c'est là, dit Pascal, Jésus est en agonie jusqu'à la fin des temps, ne dormait pas, et ça n'a pour but que d'appliquer les leçons de la passion. Ben, il y a un refus obstiné, bon, bien décrit dans l'Apocalypse aussi, et donc à ce moment-là, il y a ouverture du voile, vous voyez, donc, il y a cette vision, et la voix que, dans le début de l'Apocalypse de Saint Jean à Patmos, la voix comme les eaux nombreuses du Christ qui fait le réquisitoire. Enfin, il est déjà promulgué dans l'intime des âmes, mais les pères pensent qu'il y aura une promulgation physique, et on entendra la voix du Verbe qui simplement décrira le réel. J'ai été ces enfants, vous avez tué, l'enfant de leur mère, ces vieux que vous avez euthanasiés, ces troupes que vous avez pris avec vous et que vous avez laissé assassiner, ces disparus que vous n'avez pas recherchés, ces gens qui étaient en prison que vous n'avez pas visités, j'ai été tout ça. Et les gens, et attends, mais quand, mais c'est, regardez. Donc, il y a une vision du réel, et le réel, parce que le Christ s'est vraiment voulu vraiment s'identifier à. C'est vrai en ce sens-là que le Christ s'est uni à tout homme, en ce sens que dans tout homme, je trouve le Christ souffrant. Donc il est là pour que je lui fasse du bien. Bon, alors, vous voyez, et ils verront ça, et ils auront l'idée qu'en fait, ça aurait été facile s'ils avaient voulu. Ben, c'était justement le mouvement intérieur de la volonté vers l'enfant spirituel. Parce qu'au fond, est sauvé celui qui passe dans l'enfant spirituel. C'est pas souvent, on se représente au salut. Je me souviens d'un vieux retraitant qui était un fanatique des exercices de Saint-Julien, un fanatique au sens catholique du terme. Mais alors, il était venu chez nous, vous voyez comme on est bon et suave et mignon et tout, pour faire les 30 jours de Saint-Ignace, tout seul évidemment. Et alors, donc, je me souviens, il était venu me voir à la fin, il est décédé maintenant. Et il me disait, mon père, le salut, c'est une question d'organisation. Ça m'avait beaucoup amusé. Je lui ai dit, c'est très jésuite. Mais c'est pas bête, j'avais jamais pensé. Bon, donc organisez-vous au max, hein. Vous pouvez faire la retraite du rosaire en particulier, le RJC qui est sur l'espérance. Et bon, on a beaucoup de choses, hein, sous la main. Justement, c'est des richesses qui nous. Faut pas qu'elles nous retombent dans la figure. Hein. Parce que celui qui a rien, ben, le mec quand même paumé qui m'adresse la parole dans la rue, ou la musulmane qui se demande à se confesser, ça jugez moins sévèrement que vous, parce qu'elle n'a pas le RJC, enfin du moins, je n'ai pas son adresse pour m'y inviter, parce que j'ai pas de. J'espère qu'on va faire des choses pour elle, justement. On a un père qui essaye de faire des choses là-dessus, mais ils sont jugés beaucoup moins sévèrement que nous, on a tous ces trucs-là. Hein, et. Bon, il faut tâcher de se motiver un peu pour ça. Donc, le damné, il verra ça, il aura cette vision, beauté, et retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel, qui en plus avait été préparé pour les démons. C'est vous qui avez rejoint le démon là-dedans, comme le dit le Père éternel à Sainte Catherine de Sienne. Mais, donc, vous êtes volontiers sous la seigneurie du démon, quoi. Et là, donc, à ce moment-là, ils seront donc dans l'enfer, qui est aussi un lieu, à cause des corps, et l'enfer sera scellé. Avec le sceau non erit tempus, on voit dans l'Apocalypse, hein, le sceau, il n'y a plus de déroulement de la durée telle qu'on la voit ici. Et donc là, il ne peut plus nuire. Hein. C'est ça l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure que le temps avance, les élus augmentent, mais les damnés en enfer ne nuisent. Donc en fait, moi je suis plutôt, j'ai une espérance eschatologique. Quoi. Ça va mal, d'accord, mais il y a plus d'élus maintenant que quand j'ai commencé à faire mon topo, hein, et ils nous aident. Et les damnés qu'il y a eu depuis le début de mon topo, normalement ils ne sortent pas. Sauf permission exceptionnelle. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de permissions qui sont données grâce à Dieu. Il y a donc le bien augmente, vous voyez. Et donc, au total, la victoire est acquise au Christ. Mais c'est comme. Alors, vous voyez, je crois qu'il y a un élan apostolique très fort. Je crois que le christianisme est un peu faiblard. Parce que là-dedans, vous voyez, il y a jamais une vocation. Hein, soit de religieux, soit de prêtre, soit de père de famille vraiment motivé, qui investit dans sa vie la hiérarchie des valeurs, de l'éducation, de la formation, de l'apostolat et tout. Parce que quand vous pensez qu'il y a des gens qui sont en enfer, ça vous bouge quand même, non? Si vous dites qu'il n'y en a pas, si vous assistez à des enterrements où à peine le gars est sorti, il vient se faire les pires des choses, mais il est déjà au ciel, bah, les mecs se disent, bah, ils ne disent même pas on ira aussi, ils restent dans le désespoir. C'est ça qui est marrant parce que c'est faux. C'est pour ça que je trouve que les progressistes devraient nous appeler pour prêcher à leurs enterrements. Parce que je vous assure que là, à l'enterrement, les gens sont très attentifs, ils sont très sensibles, on peut faire passer beaucoup de bonnes choses. Et donc, il faut éveiller leur esprit. Donc voilà ce que j'avais. Je termine par quelques mots d'un certain abbé justement qui avait été converti par cette pensée hein, justement de l'enfer. C'est le fondateur de la trappe. Ce peu de temps qui fuit d'un cours imperceptible et qui ne m'est donné qu'afin de me sauver. Tôt ou tard par ma mort doit enfin s'achever et de mes jours comptés le terme est infaillible. D'être surpris coupable en cet instant terrible. En quel affreux malheur serait-ce me trouver, mais toutefois, hélas, ce malheur est possible. Ce malheur est possible, et je chante et je ris, et des objets mortels mon cœur se sent épris, en quel sommeil mon âme est-elle ensevelie. Que fais-je, qu'ai-je fait du temps que j'ai passé? Ah, mon amusement me convainc de folie. Vivre sans vivre enfin, c'est vivre en insensé. Et du coup, il a fondé la trappe, il y a plein de trappistes qui ont des grands sourires. C'est fini, question. Différence entre l'hérétique formelle et matérielle. L'hérétique matérielle, c'est celui qui dit quelque chose contre un dogme défini de la foi. Et l'hérétique formelle, c'est l'hérétique matérielle. Ça, c'est dit quelque chose qui est contre la foi, et contre la foi telle qu'elle est clairement explicitée par ceux qui, dans l'Église, doivent l'enseigner. Donc le pape et les évêques en communion avec lui. Et l'hérétique formelle, c'est celui qui connaît cette opposition. Et il dit, bon, je sais que le pape et les évêques enseignent comme inclus dans la révélation divine, ou comme lié à la révélation divine, telle chose, et je refuse de la croire. Et donc là, il choisit une autre règle, parce qu'aïrésis, ça veut dire le choix en grec. Hérétique, c'est celui qui choisit sa réflexion au détriment de l'ensemble de la révélation. C'est donc un choix. C'est pour ça qu'il y a une attitude fondamentale d'humilité dans la foi. Il faut accepter que Dieu a mis des hommes pour lire l'écriture avec nous et nous aider dans cette lecture. Alors on ne peut pas, souvent c'est difficile de déterminer, c'est le rôle de l'inquisition autrefois, j'ai un peu étudié la procédure inquisitoriale, va consister à essayer de savoir si l'inquisition a la juridiction sur les baptisés, hein. Pas sur les juifs, il faut le savoir, sauf les marins sans qu'ils aient été baptisés au moins apparemment. Mais quand quelqu'un était catholique, on estimait qu'il n'avait pas le droit de quitter sa religion, et donc on tâchait l'inquisiteur de établir si oui ou non il se rendait compte qu'il s'opposait à la foi de l'Église. S'il ne s'en rendait pas compte, ben, il avait une peine légère, il était absous. Et s'il se rendait compte, il avait des peines plus graves, rarement la peine, ce qu'on appelle la relaxe au bras séculier, selon un terme un peu bonasse pour ce que ça représentait, la relaxe au bras séculier, ce qu'on était envoyé au jugement au tribunal séculier. Et comme la plupart des états chrétiens avaient associé des peines de mort à l'apostasie, voilà. Mais c'était plutôt rare. Donc l'hérétique formelle, voilà, c'est celui qui dans son cœur dit, bon ben, l'Église catholique enseigne ça, je le vois, mais je le refuse. Donc il y en a un certain nombre. Le père Bonino, qui a fait la préface de ma thèse, dit, nous vivons dans un climat où l'hérésie fleurit de façon connaturelle. Chacun se fait la religion à la carte, hein, on choisit son truc, alors que l'attitude fondamentale, c'est de se dire qu'est-ce que dit l'Église, qu'est-ce que dit le catéchisme, quoi. Et à partir là-dedans, il y a une grande liberté, parce qu'à part, tout n'est pas déterminé, il y a beaucoup de conséquences théologiques qui sont libres. Hein. Oui.
Comment tu peux comprendre la situation de Saint Antoine sur le fait que le Christ a elle et les damnés.
Haï du Christ, oui.
Oui.
Ben, il les hait pas, si vous voulez. C'est que l'amour, si vous voulez, c'est. Il faut mettre toujours l'amour avec son coefficient. Dieu aime la matière, coefficient. Matière, c'est-à-dire, vous voyez, il aime les cailloux pour leur donner l'être de cailloux. Par contre, il aime davantage les animaux parce qu'il les aime coefficient animalité. Donc il les aime pour leur donner la vie. Il aime plus les hommes et les anges qu'il les aime coefficient intellectualité. Et il aime plus les élus encore, car il les aime coefficient béatitude éternelle. Quoi. Voilà. Alors, le damné, là, il est aimé du Christ en tant que le Christ est Dieu, et même en tant qu'il est homme, comme créature, et comme homme. Qu'il existe, il a son intelligence, il a sa volonté. Voilà. Mais il est haï en ce sens que, alors c'est un terme peut-être qu'il aurait fallu mettre entre guillemets avec la façon de s'exprimer aujourd'hui, en ce sens que, si vous voulez, du point de vue du salut, le Christ se présente au damné comme quelqu'un que le damné refuse absolument. Donc c'est ce qu'on appelle être haï du Christ. Peut-être qu'il aurait fallu faire une périphrase, parce que ça ne veut pas dire que le Christ, il a une sorte de passion contre le damné, mais il a en lui, si vous voulez, un état de respect complet, qui fait qu'il l'aime comme homme et comme créature, mais dans son rapport au bonheur, si vous voulez, le damné le haine. Donc le Christ dit, bah, tu veux me haïr, il le laisse le haïr, vous voyez. Ben oui, mais les pères de l'Église sont quelquefois plus réalistes, si vous voulez. Quand on dit qu'on est haï, c'est qu'on reçoit du Christ, si vous voulez, il reçoit quand même la sentence de damnation éternelle. Donc, en tant qu'il en reçoit cette pénitence, sous cet aspect-là, on peut dire ça, si vous voulez. Mais je sais que j'accepte pas cette citation-là que j'aurais dû mettre. J'en avais une autre réserve parce que c'est vrai qu'il faut bien expliquer les termes. C'est pas une passion et c'est pas injuste, vous voyez. De même que je sais pas un père qui châtie ou une autorité qui châtie un coupable exerce son droit et surtout la justice par rapport au coupable. Et donc exerce un droit du coupable d'être châtié. Mais cependant, il lui envoie quelque chose de douloureux, quoi. Donc en ce sens-là, on peut dire que c'est appréhendé comme une.
Je trouve que c'est assez simple de comprendre la proportion qu'il peut y avoir entre la gravité de la peine et la gravité du péché. En revanche, ce n'est pas évident de comprendre la proportion entre la gravité de cette peine et la conscience qu'on a de la gravité du péché. C'est pas simple, quoi. C'est-à-dire que dans la vie, c'est très facile de pécher, il n'y en a pas forcément.
Oui, mais attendez. Donc la question, c'est la peine et la gravité du péché et la conscience qu'on en a.
Oui.
C'est deux choses distinctes, c'est vrai.
Oui.
Mais on est châtié en fonction de la conscience qu'on en a. Oui.
Ouais, alors ça irait plutôt dans le sens des miséricordieux alors, parce que j'imagine que la plupart des gens.
Vous imaginez mal, mon cher ami. Moi qui ai 30 ans de confession, j'imagine pas comme. Pourtant ce que je confesse, c'est pas les pires détruants. Ça m'arrive de confesser quelque chose de détruant, mais c'est plus rare. Donc vous savez, la conscience, vous savez, les gens. Je sais pas, les gens ne vous racontent pas leur vie, hein. C'est dehors, tant mieux. Parce que si on voyait la conscience de tout le monde, ça serait juste au jugement d'année. Si à chaque instant, on voyait ce qui est dans la tête de chacun, merci bien.
Une méditation sur l'enfer, par exemple,
oui.
Se convertir quelqu'un,
oui.
Ça serait bien si on avait tous les jours devant soi la conséquence de ses actes, peut-être qu'on ne ferait pas ses actes.
Ben, c'est dans l'Écriture. L'Écriture dit « Souviens-toi de tes fins dernières et tu ne pécheras jamais ». Mais seulement, vous voyez, il faut un peu les deux, parce que il faut se rappeler la peine, mais bon, la peine, c'est plutôt un motif de rétraction. Et les motifs fondamentaux, c'est le dynamisme de l'amour. Donc il faut être fasciné par le Christ. Mais la peine est très utile, parce que quand vous allez sur une pente comme ça, eh ben, il faut vraiment vous arrêter dans un fossé plein de boue, quoi. Sinon, vous allez continuer à dégringoler la pente. Et c'est drôle, si vous voulez, de la crainte. Mais une fois que vous avez ça, à ce moment-là, vous commencez à rentrer en vous-même, à lire l'Évangile, et puis à dire, bah, tiens, le Christ, il a essayé de me sauver, tiens, c'est magnifique, et vous commencez à être fasciné par le Christ. Et on est sauvé, c'est cette fascination-là qui nous sauve. Et une chose qu'il importe de bien redire, ce qu'il peut y avoir de vrai dans l'intuition des miséricordieux, c'est ce que dit le père Molinier, qui est un des rares auteurs modernes qui parle de l'enfer. Il dit, mais vous savez, pour être sauvé, il ne faut pas croire qu'on est sauvé à la force du poignet, comme si vous voulez, c'était la faiblesse qui damnait. Ce n'est pas la faiblesse qui damne. Ce qui damne, c'est l'endurcissement. C'est qu'il vaut mieux à la limite un gars qui tombe et qui se relève, qui tombe et il se relève, il tombe et il se relève, il tombe. Ou il tombe et il dit, je suis un salaud, que le mec qui tombe moins. Mais quand il tombe, il dit, attends, moi je suis propre sur moi, moi je m'en mets pas encore, mais non, mais ça c'est des affaires, hein. Et bien ce mec-là, s'il s'endurcit, alors lui, vous voyez, et alors, seulement le problème, on ne peut pas rentrer dans la psychologie des gens. Mais Moni a tout à fait raison, ça, l'expérience pastorale le confirme aussi, le type qui est faible, Dieu sait bien qu'on est faible, mais le type qui est faible, bon, il va remonter, si vous voulez, on espère que le gars qui a toujours désiré bien faire, mais qui est toujours tombé, mais qui est toujours remonté, moi je pense que ce gars-là, il sera sauvé, il aura. Si puis il atteint le viage, il aura des grâces de salut, au moins à l'instant de sa mort. Mais le type qui s'endurcit, si vous voulez, qui dit non, vous voyez, non, non. Moi, par exemple, le gars, vous lui dites, c'est bon, le type, vous lui dites, bah, écoutez, vous êtes chrétien, vous êtes baptisé, il faut quand même le dimanche, le Christ est ressuscité le dimanche, non, vous ne croyez pas? Oui, oui. Ben, l'Église nous dit, il faut aller sanctifier ce jour-là, donc assister. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, l'Église dit ça. Je dis bon, alors, le gars qui n'a pas pratiqué depuis 10 ans, par exemple. Et donc, vous lui dites, bon, alors donc vous allez y aller. Elle dit, non, 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 je ne peux pas vous le garantir. Alors je dis, bon, vous êtes honnête, quoi. Vous en êtes là où vous êtes, quoi. Moi, je ne vous absous pas. Oui. Je le bénis, si vous voulez, je prie, je lui dis, écoutez, réfléchissez à ce que dit saint Augustin, marche dans la lumière que tu possèdes, vers la lumière. Parce que j'espère qu'il est de bonne foi, si vous voulez. Et c'est ce que, bon, peut-être très probable dans le cas auquel je pense dans ma tête. Mais ça peut très bien que le gars dise non, quand même, la messe tous les dimanches. Moi, c'est la grâce matinée jusqu'à 56, hein. Ça ne me permet pas d'aller à la dernière messe. Hein. Sauf en Espagne, mais enfin pas en France. Donc, cool. Et le mec, non, le mec, qu'est-ce qu'il défile, quoi. Et Bernanos, justement, dans ce jour, sous le soleil de Satan, explique ses âmes qui se défilent, ouais. Là, il y a un endurcissement, au moins une fuite de la vérité, vous voyez. Et là, on amasse des charbons. Ou les passages de Pascal sur l'indifférence, celui que vous envoyez. C'est aussi un type d'endurcissement. On s'endurcit dans l'ignorance. Ça, c'est beaucoup plus grave. Le type qui tue, qui tête, fait des saloperies, il dit, mais je suis un salaud, c'est clair. Il a une porte, le bon larron, le premier canonisé, c'est un larron, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas la faiblesse qui donne, c'est l'endurcissement. C'est le fait de pas vouloir reconnaître ce qu'on est, quoi. Oui.
Est-ce qu'il y a une hiérarchie des peines en enfer ?
Oui. Ben, vous avez les. Si vous lisez Dante, vous avez les bolges avec les différents. Bon, c'est très très imagé, c'est un peu trop peut-être. Mais chaque supplice, ça, c'est ce que ici le chapitre que je vous avais cité sur les jugements, les peines de l'enfer de l'imitation de Jésus-Christ au livre 1, chaque pécheur a son tourment propre. Donc il y a une gradation qui sort de la nature et de.
Et c'est un châtiment éternel, donc sans.
Oui. Mmh. Éternel.
C'est-à-dire un méchant pas trop méchant.
Mais oui, mais c'est que là justement vous êtes dans une logique mathématique qui ne va pas en métaphysique. C'est ce que j'expliquais à madame à propos de la différence entre les maths et la métaphysique. En métaphysique, c'est l'être que vous saisissez. Et là, c'est est-ce que le type il est mort dans le refus de la loi divine? Parce que les gens disent moi, mais moi je n'obéis pas Dieu. Mais par contre, je n'obéis pas à sa loi et tout. Mais j'aime bien Dieu quand même. Dieu est assez cool, c'est sympa. Et, mais, donc il meurt dans le refus de la loi de Dieu. Ou pas, c'est tout. En enfer, il n'y a que des gens qui sont en état de péché mortel. S'il est entre les deux, comme vous dites, ben, il va au purgatoire. Ça, c'est, on verra la prochaine fois, l'état de l'âme au purgatoire.
Vous avez lu des ouvrages qui disaient que l'enfer, c'était l'éloignement de Dieu, et pourquoi ça crée l'enfer.
Oui. Ah oui,
c'est si en enfer, tout le monde est éloigné de Dieu, les peines sont les mêmes. Enfin,
pardon. Si.
Si en enfer, toutes les personnes sont éloignées de Dieu.
Plus ou moins, parce que vous voyez, vous avez le gars, bon, qui a fait quelques péchés dans sa vie et tout, qui ne s'est pas repenti, etc. Bon, ils sont endurcis aussi, parce que toute personne a un certain endurcissement, au moins on évite les grâces finales. Hein. Donc il est en enfer. Bon, mais ce gars-là, il a eu, bon, peut-être qu'il n'a pas eu aussi beaucoup de chemin, de ressources dans sa vie. Et le gars qui en a eu beaucoup, qui a fait beaucoup de mal, et bien lui, il a repoussé, si vous voulez, il s'est rendu difforme, parce que la grâce attaque l'homme, si vous voulez. En fait, il faut voir que l'homme est constamment attaqué par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il se défie, il est constamment attaqué, et donc il se défend, si vous voulez, et plus il se défend, plus il se déforme. Une grâce qui dit, ben écoute, enfin, votre écoute, attention, réfléchis, non, 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 et non, 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 et de plus en plus, donc il se déforme de plus en plus, il devient de plus en plus scrofuleux, et donc il est de plus en plus, il se châtie lui-même de plus. Vous voyez, donc, il repousse l'enfer proportionné aux grâces repoussées.
Il y a quelque chose que je comprends pas très bien, c'est que en fait toutes les peines que vous avez décrites, on peut les vivre dans la réalité, dans notre vie actuelle. Comment se fait-il que ça.
Ben, on peut en avoir un petit avant-goût, mais les vivre vraiment. Non. Parce que si vous voulez, dans le dedans, en particulier la peine la plus fondamentale, hein, dans le dedans, il y a vraiment une lucidité métaphysique, vous voyez. C'est-à-dire qu'habituellement l'homme est distrait. C'est la grande force de la poétique de Pascal. Il a compris le rôle de la distraction, enfin du divertissement. Donc si vous voulez, vous avez du mal, de la souffrance, puis vous avez d'autres choses, si vous voulez. Mais vous n'êtes pas continuellement entre quatre murs. Entre quatre murs, au mitard de la santé, par exemple, ici à côté, là, un peu plus par là. Quand on vous met au mitard, c'est une pièce. Au mitard, c'est la seule disciplinaire. Il n'y a rien, sauf la Bible qu'on ne peut pas vous enlever. Et là-dedans, bah, vous devenez fou. Par contre, dès que vous avez un peu quelque chose, vous avez une distraction. Donc ici-bas, vous ne pouvez pas dire que vous avez les peines de l'enfer. Parce que c'est toujours mêlé de divertissement. Et puis c'est beaucoup moins intense, parce que vous ne voyez pas votre âme. Donc vous ne voyez pas, si vous voulez, le damné, ce qui le fait le plus souffrir, c'est de voir la laideur de sa propre âme. Je voyais la face de celle de Lucifer, cette terreur de l'enfer, on cherchait à se léviter, mais on a de voir la laideur, si vous voulez, la laideur morale des choses. Oui. Et parfois dans la vie, vous la soupçonnez dans ce que dit le pape dans l'encyclique. En voyant certains profils de carrière de certains hommes du XXe siècle, on a un peu un avant-goût de l'enfer, quoi. Ces hommes qui accommodent à l'infini, vous savez, qui, quand on les juge, les témoins disent qu'ils accommodaient à l'infini, c'est qu'ils étaient au-delà du bien et du mal, quoi. Et donc ça donne qu'une petite idée, parce que la réalité, c'est que à côté de ça, ils nourrissaient leurs poissons rouges et compagnie.
Justement, vous disiez que juste avant la mort, on avait un avant-goût.
Ben, attendez, comment se fait-il que. C'est ce que décrit Sainte Catherine de Sienne.
Oui.
C'est ce que décrit Sainte Catherine de Sienne, et elle ne semble pas en faire une loi absolument générale. C'est une description. Et elle dit, voyez, de même que, ce que Sainte Catherine de Sienne, ce que j'ai voulu dire la dernière fois, c'est que l'immutabilité de l'âme en enfer se compose de deux éléments, un choix initial qui vient de nous, et le blocage de ce choix par la séparation de l'âme et du corps. Mais le choix initial, c'est-à-dire le dernier instant de notre vie, on meurt en fuyant Dieu, vous voyez. On meurt détourné de Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans l'Italie, sauvez-moi de la mort imprévue, etc.
Et
à ce moment-là, on est bloqué.
Après, j'ai deux petits problèmes. Je croyais qu'en enfer, on était tourmenté par des démons.
Oui, ça aussi, mais j'ai pas eu le temps, mais je peux pas tout dire. Il y a tellement de choses. La visite complète de l'enfer est assez laborieuse.
Et puis,
on est tourmenté par les démons, tu veux, parce que les démons sont des esprits. On est déjà tourmenté un peu par les démons ici-bas. Hein. Et notamment, ils sont des puissances, vous voyez, qui vont d'une tristesse sans aucune cause, tout d'un coup un accablement qui vous arrive. Ça, c'est très souvent démoniaque, bon, c'est quand même pas trop rigolo. Hein. Ou une telle tentation de suicide énorme et tout, des fois ça peut être démoniaque. Bon. Et puis les démons inspirent aussi des structures de péché. Bon, et alors en enfer, on a l'évidence, si vous voulez, qu'on s'est soumis à lui, quoi. Parce que pour des strauss de rien, on a méprisé la noblesse, quoi. C'est-à-dire que le Christ veut être servi sous les aspects de la noblesse, à savoir que aller vers lui et le servir, c'est un truc gratuit et beau, et comme les choses gratuites et belles, c'est méprisé et inconnu. Et tout le christianisme, c'est ça. Et essayez de faire un peu une œuvre d'art, tout le monde rigole, vous soyez un savant astrophysicien en fait de la corrida, et soyez un torero au top niveau, et bien tous les mecs de la société protestante des animaux et les autres crétins de cette espèce-là, ils ne vous comprendront pas. Moi, je prends un exemple tout à fait partial et tendancieux. Mais dès que vous êtes un peu dans l'exception, vous voyez, quand vous les vivez dans le plus, vous voyez, pour la beauté ou pour la domination, pour des choses qui sont hors du commun, vous allez être l'objet de la ridicule. Les gens ne vivent pas à ce niveau-là habituellement. Vous voyez, quand vous écoutez les plaisanteries, même dans le TGV, c'est quand même pas, il y en a quelques-unes sont fines, mais habituellement, c'est pas la chambrée militaire, mais enfin, c'est intermédiaire entre le salon.
Et j'ai une dernière question.
Oui.
Dans la Passion de Mel Gibson, on voit le Christ vider l'enfer.
J'ai pas vu ça, moi.
Non.
Après, il y a une image finale où, voilà, où le démon sent qu'il est vaincu dans l'enfer. Il y a le visage de l'enfer en sens que les patriarches étaient dans ce qu'on appelle aussi les enfers, c'est un terme générique. Il y a l'enfer des damnés, le purgatoire, les lames des enfants morts, etc. Et puis les patriarches, qui maintenant ça s'est vide, il n'y a rien plus. Parce que tous les juifs de l'Ancien Testament sont partis avec le Christ après la rêve. Donc c'est cela qu'il a visé, il a emmené avec lui. Et potentiellement, il entraîne aussi tous les justes après. Et donc c'est cela, oui. Et puis il a brisé le pouvoir de l'enfer en sens que depuis la passion, le démon en fait est toujours comme un serpent. L'autre jour en promenade, on a été dans une famille qui a des serpents, qui ont ramené le Guyane et tout. Et on a assisté à la façon dont le serpent dévore la souris. Les dames ne tombaient pas dans les pommes. C'est vraiment impressionnant, quoi. Parce qu'en fait, il la croque pas, quoi. Mais il, au début, on se dit, tiens, mais est-ce qu'il la voit? Je dis, il est aveugle, ça va. Il lui passe pratiquement à côté, et après il saute, et c'est son corps qui l'enroule. Là, c'est des petits serpents, ils étaient plus grands que ça. Hein. Et il l'enroule, et alors là, il l'étouffe avant de la bouffer. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment il fait ça, quoi. Et à de près la passion, le démon est encore plus serpentin. C'est-à-dire que c'est toujours, mais il est vaincu, quoi, parce qu'il a tué l'homme-dieu, donc il s'est fait avoir lui-même, quoi. S'ils avaient connu le roi de gloire, dit saint Pierre, jamais ils ne l'auraient crucifié au saint Pierre. Donc s'ils avaient supposé que ce saint, ce prophète, était vraiment métaphysiquement le fils de Dieu, qu'ils croient maintenant d'une foi non salutaire, ils ne l'auraient pas mis à mort. Mais en tuant celui qui a la nature humaine innocente, ils ont détruit le pouvoir de l'enfer. Mais enfin, il y a un combat, quoi. Il faut retrouver la dimension agonistique du christianisme. Hein. Parce que je crois, moi je suis frappé, je vous ai dit la dernière fois, que mon premier supérieur religieux pensait que l'antéchrist, qu'on peut penser que c'est une personne ou pas, moi je pense que ça aurait pu être une personne, elle fera une persécution, la dernière persécution avant le retour du Christ, qui sera d'ordre psychologique. Et de fait, c'est ce que dit un peu le catéchisme de l'Église catholique, qui proposera la paix en la payant de l'abandon de la vérité. Sous une forme. Et actuellement, je crois qu'il y a beaucoup une sorte d'abandon de la vérité religieuse. C'est-à-dire que la vérité religieuse sort du cercle public, si vous voulez, il faut abandonner ça, on tombe dans le relativisme plus total, pour assurer la paix. Parce que sinon, la religion ne fait pas la paix, etc. Et ça, c'est quand même assez subtil. Là, c'est un peu donc je crois qu'il faut retrouver l'idée qu'il y a un combat, et peut-être si nos évêques pouvaient retrouver que dans leur fonction, la crosse, c'est pas uniquement pour faire joli, ça serait quand même bien, parce qu'il y a une fonction, vous voyez, l'évêque, et celui aussi qui, avec la crosse, chasse le loup, c'est le démon par rapport aux brebis, quoi. Donc il ne doit pas hésiter aussi à être celui qui combat. Et c'est bien, c'est plutôt sympa quelqu'un qui combat, quoi. Quelqu'un qui est mou, c'est désagréable. Enfin, moi, ça me déprime. Quand t'es trop mou. Enfin, l'enfer, c'est à la fois terrible, mais je crois que c'est très apostolique aussi. Oui.
Est-ce que Benoît XVI est intervenu soit durant son pontificat, soit quand il était cardinal, contre la théorie des miséricordieux?
Je pense qu'il a. Il faudra que je recherche. Je ne pourrais pas vous dire ça a priori. Ouais. Je vous tâcherai de vous dire ça la prochaine fois si je retrouve. Mais je ne suis pas certain même de le retrouver. À mon souvenir, je ne sais pas s'il en a parlé. Je sais pas. Oui,
je voudrais vous parler de l'objection contre l'enfer de la pensée moderne qui me semble la plus forte. C'est que comment est-ce que Dieu, dans sa justice, peut mettre en balance des fautes limitées et dont on a une conscience limitée avec une peine illimitée dont on a une conscience pleine et entière?
Attendez, là le problème est mal posé parce que la faute, les deux, il y a deux éléments du présupposé qui sont en rapport au point. Elle n'est pas totalement limitée, elle a une certaine infinité, ça qui est mystérieux.
Et le fait même de son éternité la rend illimitée.
Attendez, non, mais la faute elle-même, quand on la commet, c'est ce que je nie, si vous voulez, déjà psychologiquement et métaphysiquement on s'en rend compte, mais disons après c'est révélé quoi. Et qu'il y a cette espèce de portée que l'homme est un être qui a une capacité d'infini. Et c'est ce que l'enfer. Vous voyez, je vous avais cité plusieurs fois ces vers de Dante. Fait chez mi la divina potesta, la somma sapiens in primo amore. C'est le premier amour qui a fait l'enfer. C'est le revers de l'amour aussi. C'est que Dieu lui continue à aimer cette créature. Bon, elle ne veut pas son amour surnaturel. Elle a son amour naturel qui lui donne l'existence et la vie. Et le bien ne cale pas devant la révolte. Oui. Alors, le fait que la créature voyez, fasse quelque chose qui soit fini, si vous voulez, je ne pense pas que c'est totalement fini. Et puis, deuxièmement, quel était l'autre argument? C'était donc c'était une peine.
Le fait qu'on passe d'une conscience de son péché médiocre.
Oui, attendez, je ne pense pas parce que c'est pas quantitatif. Voyez, la conscience. Quand vraiment vous avez un remords d'une faute grave. Ce remords, je dirais, quelque chose d'absolu. Là, quelqu'un m'a offert les Lamentations de Grégoire de Narek. C'est le père fondamental de l'Église arménienne, vers l'an 1000. C'est un livre qui est entièrement fait sur le thème de pleurer ses péchés avec une poésie absolument rutilante et magnifique. C'est le livre fondamental de la spiritualité arménienne. Et on voit que ce n'est pas du tout démoralisant parce qu'en fait, cet homme a passé sa vie à voir la profondeur et la grandeur de l'homme, justement dans la capacité qu'il a à. Aussi à refuser la rédemption du Christ et la rédemption du Christ montre justement cette capacité. Donc c'est certainement c'est le Christ qui nous révèle en fait à quel point l'homme est grand, à quel point nous pouvons finalement, quand vous appuyez sur un bouton pour mettre une balle dans la tête de Mozart avant qu'il ait fini ses compositions, c'est quoi ce que vous faites? C'est fini ou c'est pas très grave? C'est pas très grave, hein. C'est fini quoi, parce que l'énergie si vous la calculez en joules pour appuyer, enfin il a fallu dépenser le prix de la balle et tout, puis mettre le silencieux, machin. Mais une fois que vous avez appuyé, c'est quoi? Là, vous voyez, un basculement qui n'est plus de l'ordre quantitatif. Vous êtes passé au-delà, et vous êtes passé au-delà de quelque chose qu'on ne peut pas qualifier autrement qu'infini. Foutre une balle dans la tête de Mozart, enfin, je suis désolé, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour dire que c'est pas quand même le top, quoi. Et puis c'est même pas quantifiable, si vous voulez dire, oui, mais moi j'aime pas Mozart. Moi, c'est la musique dodécaphonique. Sérieux, c'est le machin qui fait comme ça dans le métro. Donc je peux flinguer, personne ne va dire ça. Parce qu'il y a un gars qui dit ça tout de suite à Sainte-Anne. Hein. Donc je crois qu'en, si vous voulez, dans le péché, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas de l'ordre quantitatif, on passe vraiment dans un univers qui est autre, voyez. Et qui n'a pas de limite en soi. Mais c'est vrai que c'est Dieu qui c'est le Christ qui nous révèle. Hein. Ils iront, ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais je crois qu'il y a aussi une idée, c'est que l'amour de Dieu est conçu de façon, si vous voulez, compassionnelle. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez un amour qui tue. Hein, par amour, par compassion, je vais tuer ma grand-mère. Ou ma mère, enfin, si elle est un peu malade, si elle a un gros rhume, elle n'est pas soignée. Quand même, la vie qu'elle mène, c'est pas une vie, etc. Alors, une petite dose d'état, machin, et tout. Bon, mais qu'est-ce que je suis compassionné? Et puis alors là, puis je vais émouvoir la chambre, etc. Et puis, c'est quand même hallucinant pour cette taille. Donc l'amour compassionnel qui tue, c'est pas de l'amour du humain en tout cas. C'est comme j'aime mon chien, il a mal, je le pique quoi. Mais il faut voir ça. Alors les gens, si on conçoit l'amour en y faisant entrer des sentiments humains, évidemment des sentiments humains, c'est au point de vue purement charnel, vous voyez, hein, je veux dire. Donc c'est le gars qui ne donne pas de punition aux enfants parce que ça leur fait mal, quoi. Donc bonjour les enfants quand ils sont grands. Moi je le vois après, c'est pas beau. Hein. Donc c'est pas vraiment quelqu'un qui aime, et pour Dieu c'est pareil, si vous voulez. Ce que dit Peggy, Dieu nous a pas fait pour se moquer de nous. S'il nous envoie dans la réalité, on est en face à cette réalité est magnifique. Et comme dit Molinier, scandalisons-nous d'accord du mal, mais ce scandale du mal suppose le scandale premier du bien. Et en fait, celui qui est damné, celui qui refuse d'admirer le bien, de se scandaliser du bien. C'est merveilleux ce qu'il nous a donné, la vie, l'existence, on respire, il y a de la bière, vous êtes sympa, etc. J'ai publié mon bouquin, enfin, je ne vois pas, c'est des meilleurs. Mais il y a plein de trucs, mais bon, mais elle pleut quand je sors, non, je ne peux pas. Mais vous voyez, mais bon, il y a des tops, et puis c'est même beaucoup plus fondamental que ça, quoi, quand on réfléchit à tout ça. Mais si on ne dit pas merci, bon, ben là, on se met sur la voie de la donation. Une dernière question, Charles-Henri.
Est-ce que celui qui est condamné a une vision de Dieu lors de son jugement?
Non, une vision de l'humanité du Christ, le jugement dernier. Et une appréhension de Dieu, parce que de Dieu métaphysiquement, si vous voulez, Dieu comme créateur, on sait que Dieu a créé le monde. Mais on ne le voit pas. Voir Dieu suppose la grâce et la gloire. Donc il n'a pas vision de Dieu, il voit le Christ. Mais il sait qu'il est fait pour un bonheur infini, et là il se rend compte que ce bonheur ne se trouve dans rien d'autre que dans ce qu'il a refusé, parce qu'il refusait l'humilité pour y aller. Heureusement, il n'a pas une part, heureusement, il ne peut pas avoir une vision de Dieu.
Entre les limbes, alors enfin, quelle est la différence entre la vision qu'ont les enfants dans les limbes, vu qu'ils ont une béatitude naturelle?
Les enfants dans les limbes, c'est des super métaphysiciens. Donc ça ne vaut rien au cas, parce que vous en foutez de la métaphysique. Mais c'est un mauvais argument, excusez-moi, je ne peux pas vous dire autre chose, ils sont heureux, mais tel moment de votre vie, vous avez été plus heureux naturellement. Physiquement, etc. et tout, ben, ce qu'ils ont, ils l'ont beaucoup plus, naturellement.
Mais ça reste fini.
Ça reste. Ah ben oui, c'est-à-dire que la connaissance de Dieu dans le miroir de l'univers.
Est-ce qu'il n'y a pas, si on prend sur l'éternité, alors faut pas bien sûr tomber dans le piège de dire une succession de jours rose, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça tourne en rond? Parce qu'il arrive au.
Non, parce que vous n'avez pas fait encore beaucoup de métaphysique. On tourne pas en rond, on n'a plus d'aspirine, c'est tout. Hein. Alors là, on fatigue parce que c'est la matière qui fatigue, c'est le cerveau.
La raison, elle n'a pas une limite à ce qu'elle peut connaître.
Ah non, la raison, oui, mais justement, la raison n'est pas qu'une capacité de raisonner. La raison, comme capacité de raisonner à une limite, on en a marre au bout d'un certain temps du théorème de Pythagore. Hein. Mais bon, on découvre d'autres choses. Mais par contre, quand vous contemplez, si vous voulez, le beau, le bien, l'être, si vous voulez, plus vous y allez, plus vous prenez goût, plus vous aimez, plus. Et là, c'est indéfini. C'est la raison au sens d'une capacité de communion avec l'être et la vérité, que justement j'ai essayé de développer, parce qu'on n'insiste pas assez là-dessus en Occident. La raison n'est pas simplement la capacité de démontrer des choses, c'est la capacité de communier avec l'existant, avec ce qui existe et de s'en réjouir, si vous voulez. Et ce qu'on appelle, si vous voulez, le pneuma, la dimension pneumatique ou spirituelle de l'intelligence humaine, qu'avait pressenti en particulier Saint-Exupéry, mais aussi des gens comme Bergson ou même Heidegger, etc. Et ils ont une raison, parce que c'est vrai que quelquefois les scolastiques n'ont pas suffisamment souligné ça. Ben, cette capacité-là, plus vous l'exercez, plus vous le. Vous voyez ce que savent les artistes, quoi. C'est que, bon, il y a une limite dans l'œuvre elle-même parce qu'elle est matérielle, mais dans la joie de l'intuition artistique et surtout dans le débouché, si vous voulez, que ça donne dans le vrai, dans le. Il n'y a aucune limite, quoi. Donc ils ne s'ennuient pas du tout. Les enfants. Ils jouent, c'est ce que dit. C'est ce que dit très bien Peggy quand il décrit les enfants, ils jouent, ils travaillent, pour eux c'est la même chose. C'est très, très beau, c'est ça, la description des enfants au début du porche de la deuxième vertu. Dernière question. Parce que l'homme l'homme peut, quand il est adulte, adhérer au Christ par le baptême de désir, au moins mystérieusement, en adhérant à Dieu en tant qu'il se révélera à lui. Vous voyez, c'est ce que quelqu'un qui est droit, qui cherche à faire tout ce qu'il semble, qu'il croit être vrai, et qui dit si Dieu me révèle quelque chose, je veux dire, bon, alors on peut penser qu'il a une adhésion personnelle au Christ. Par contre, pour l'enfant avant la raison, le seul moyen que nous connaissions. Et je précise bien, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres. Les seuls que nous connaissions et qui sont révélés, c'est le baptême d'eau. Oui, ou le baptême des saints innocents. Bon. Donc peut-être qu'il y a d'autres cas, car j'ai tant à penser que la mère qui portait un enfant pouvait faire une sorte de baptême de désir pour lui, n'était pas révélé. Donc qu'il y ait des cas, c'est possible, parce que Dieu n'est pas lié au sacrement. mais que ça soit réalisé, c'est ce qu'affirme beaucoup le dernier document de la Commission théologique internationale. Et moi, personnellement, je ne suis pas convaincu par les arguments. Et je pense qu'au contraire, comme le cardinal Journet et Jacques Maritain disaient, l'enfant dans des limbes magnifie la grandeur naturelle de l'homme, et dire que c'est pas grand-chose, c'est ne pas savoir ce que c'est qu'un homme. Quand on voit la grandeur de l'homme, même naturellement, ce que ça peut être, enfin, là, même la passion peut provoquer un héros ou un grand penseur, c'est un petit délire. Hein. Et bien, l'enfant aux limbes, c'est encore mieux que ça. Donc, c'est pas mieux. Voilà.